C'était Radio Éphémère 89.1 MHz sur la bande FM à Toulouse, www.radio-éphémère.net pour nous écouter ailleurs dans le monde entier. Et je sais que vous nous écoutez ailleurs dans le monde entier. Nous sommes le samedi 2 février 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 14h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, ce sera le mix de nos amis dans Céphalogramme plat. Et à 17h, éphémère, c'est de l'antenne à Booster FM sur le 89.1 MHz à Toulouse. Mais vous pouvez continuer à nous écouter, même à Toulouse et partout ailleurs, sur le www.radio-éphémère.net ou sur toutes les applications Android, iPhone, tout ça, on en passe et des détails. Mais dans les médias, voici le magazine BD en charentaise que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Alors, faut savoir que le script original, il a offert à Uma Thurman pour son anniversaire. Avec Kiss the Bride, partie 1, partie 2.
Ça, ça lui a pas coûté cher en fait. Hein.
Ouais, cadeau.
Non, mais c'est vrai, personne pense à offrir des scripts à des nanas. Faire...
Voilà, enfin, si, moi, surtout que c'est un cadeau pour lui aussi, puisque.
Oui.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'un bouquet de fleurs, des fois. Bon.
Radio Éphémère présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, ah, le micro est branché. Bonjour, c'est un nouveau numéro du supplément week-end en direct du festival d'Angoulême, en direct du Conseil Général de Charente, pour cette 40e édition du festival de bande dessinée d'Angoulême. Donc une émission spéciale qui sera déroulera en deux parties puisque nous recevons le jeune jury du Conseil Général des Jeunes de Charente dans la première partie. Ils décerneront en direct le prix actuel BD Conseil Général des Jeunes de Charente. Et dans la deuxième partie, nous ferons un topo de l'année écoulée et du festival avec nos partenaires de la rédaction d'actuabd.com. Didier Passamonique, bonjour.
Bonjour, je suis en train de manger des cacahuètes, ça colle, je suis désolé, j'ai une voix un peu bizarre.
Donc c'est toujours un plaisir de te retrouver puisque nos auditeurs qui nous suivent, ça fait la 5e, je crois, édition du prix Actua BD. Oui, la 5e édition.
Au-delà de 4, je compte plus.
Voilà, donc ils te connaissent bien. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir un autre membre de la rédaction d'Actua BD, le petit nouveau Antoine Boudet. Bonjour, je te passe le micro.
Bonjour à tous.
Voilà, tu reviendras sur l'année de comics plus tout à l'heure, puisque tu es le responsable de la section comics du site. Mais en attendant, nous recevons donc les quatre. On peut pas en parler pour l'instant, puisque l'identité du prix n'est pas encore dévoilée.
D'accord.
Donc nous avons un invité mystère. Voilà. En attendant, nous recevons
qui est à nos côtés.
Voilà. Qui ne dit rien pour l'instant, qui se sustente et qui boit un coup. Voilà, nous recevons donc les membres du jury du Conseil Général des Jeunes de Charente, qui sont donc les quatre jeunes qui sont en face de nous. Chloé, bonjour.
Bonjour.
Julie, bonjour.
Bonjour.
Baptiste.
Bonjour.
Et Neva.
Bonjour.
Alors, pour les plus fidèles d'entre nous, vous aurez reconnu peut-être trois voix parmi les quatre. Donc, Baptiste et Chloé, vous étiez déjà venus l'année dernière.
Vous êtes des anciens élus.
Oui, des vieux routiers de la politique.
Des routiers de la politique.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, Julie, tu étais venue déjà il y a 2 ans, déjà.
Non,
c'est toi, oui, pardon, j'inverse. Non, Neva, oui, il y a 2 ans, et donc, Julie, tu es donc la petite nouvelle du groupe. Voilà.
Alors, est-ce que l'un de vous peut expliquer ce que c'est que le Conseil Général des Jeunes?
On est élu dans un collège pour représenter notre collège ici au Conseil Général, où on se répartit par commission et on fait des projets pour installer dans les collèges.
D'accord. Non, au fond, vous êtes des hommes politiques, mais toujours en classe, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est ça. et des femmes, des hommes politiques, excusez-moi. Donc oui, c'est important d'expliquer que comment fonctionne le prix ActuABD Conseil Général des Jeunes, que l'ensemble de la rédaction d'ActuABD qui a la connaissance de ce qui sort d'un BD dans l'année, qui va faire un tri dans tout ce qu'on a chroniqué et qui va choisir 5 albums pour que vous puissiez les lire. Pourquoi 5 et pas 10? Parce qu'on se dit que si vous avez 20 ou 30 albums à lire, vous pourrez plus continuer vos études, faire du boulot à côté. Donc on s'est limité à 5, que ce soit lisible dans un temps relativement court. Et au fond, après, vous êtes réunis tous les 4. Comment ça se passe?
Bah, on parle de ce qu'on a préféré et tout. Et puis, bah, voilà.
Ben voilà, et quoi, bah, est-ce que vous disputez?
Pas trop.
Un petit peu. Tout à l'heure, par exemple, Neva, elle aimait un livre que nous, on n'a pas plus aimé que ça. Mm-hmm. Du coup, on a fait un tirage au sort.
Ah oui, ça s'est résolu au tirage au sort.
Oui, parce que sinon...
C'est le hasard, et c'est, voilà. C'est pas la conviction.
Oui, mais on les a tous aimés. Mm-hmm. Mais disons qu'il y en avait que certains avaient aimé plus que d'autres et d'autres un peu moins. Et du coup, bah, disons que c'était un peu compliqué cette année.
Alors, ouais, si tu peux parler dans l'axe du micro, sinon on t'entend pas trop en fait. Voilà. Mais on t'a entendu quand même. Alors, on récapitule quand même le comment vous vous retrouvez dans ce jury pour débattre des bandes dessinées. C'est que il y a beaucoup plus de jeunes élus du Conseil Général de Charente en général, mais vous êtes porté volontaire pour participer à ce jury, c'est ça? Donc j'imagine que comme il y en a 3 sur 4 qui ont déjà fait partie de ce jury, j'imagine que l'expérience s'est bien passée et que vous avez aimé débattre autour des bandes dessinées. Est-ce que ça a changé votre regard sur la bande dessinée, justement, cette précédente participation?
Pas vraiment. Enfin, je sais pas. Ça donne un peu envie d'en lire plus dans l'année. Avant, je ne lisais pas beaucoup. Maintenant, ouais, si on partage avec ma petite sœur.
D'accord.
On a envie de lire. On a envie de lire la suite de celle qu'on n'a pas pu finir. Quand il nous manque des tomes, ça nous donne envie de lire la suite.
Et dans les bandes dessinées que vous aviez lues les précédentes éditions, est-ce que vous êtes procuré les suites ou est-ce que vous avez suivi un peu l'auteur pour voir ce qu'il faisait à côté, justement?
Oui. Il y a 2 ans, on avait remis le prix à Florent Modou qui dessine Freak's Quill.
Et qui écrit aussi, oui.
Et qui écrit aussi. Et donc on devait lire les 3 premiers tomes et moi j'ai continué et aujourd'hui j'achèterai le 6e. Parce que j'adore. Je trouve que c'est génial, donc je continue.
Ben c'est bien, nos auteurs sont contents parce que ça lui a permis de gagner un lecteur, une lectrice.
Mmh. Et quels sont les BD que vous aimez en général?
Celles où il y a un peu d'action.
Par exemple?
Oh, un peu d'action. Mais comme Torgal, c'est bien, ça mêle un peu aventure, c'est ça.
Et les filles?
Moi, j'aime plutôt les BD d'humour. Mmh.
Faut se mettre dans l'axe du micro. Voilà, BD d'humour lesquels par exemple?
Spirou, Toto, tout
ça. Spirou? Ouais. Le petit Spirou ou le grand Spirou? Le petit Spirou. Et les blagues de Toto?
Oui.
D'accord. Et toi?
Moi j'aime bien tout ce qui est humour, j'aime bien aussi ce qui est drôle mais qui a une histoire qui se suit, par exemple les nombrils ou loup, les trucs comme ça. Bah, moi j'aime un peu tout, ça peut aller de l'horreur au drame sentimental en passant par l'humour, l'action et tout, mais enfin c'est pas vraiment des BD, mais moi je préfère les mangas que les BD.
Oui, des cacahuètes quand même. La question suivante c'était ça, c'est que pardon là si je crachote, c'est que normalement, enfin on entend dire que les jeunes lisaient manga et puis là, j'ai l'impression que c'est très contrasté sur les quatre membres du jury. On en a qu'une qui parle de manga et puis les 3 autres parlent de bande dessinée plutôt classique. Qu'est-ce qu'il en est? Vous lisez des mangas, vous?
Pas du tout.
Pas du tout. Comment se fait-il que... Et vous?
Non, pas spécialement.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt vers les mangas que vers la BD franco-belge ou BD traditionnelle?
Les mangas, au début, j'avais horreur de ça, il y a quelques années. Et en fait, j'ai commencé à en regarder un à la télé, donc Naruto. Et puis, j'ai commencé à aimer ça. Et maintenant, je préfère lire des mangas que des bandes dessinées franco-belges parce que je m'y suis habituée. Donc, je suis plus habituée à lire un manga donc à l'envers qu'une BD à l'endroit, même si j'arrive à lire les deux. Enfin,
qu'est-ce qui, dans le manga, fait que c'est mieux?
Peut-être le fait que ce soit vraiment un pays, enfin que les mangas aient été créés dans un pays qui est loin, que je visiterai sûrement jamais. Et enfin, je sais pas, le fait que ce soit différent par rapport au dessin.
Donc c'est le côté exotique du coup.
Voilà.
Et tu es venu au manga, grâce en fait au dessin animé alors.
Oui.
D'accord. C'est l'attrait, la plus-value multimédia de l'industrie du manga, jeux vidéo et Japanimation des Japonais qui ont... voilà. Donc là, on a une masse énorme, en fait. Petit mot pour notre réalisateur chéri. D'accord. D'accord. Bon, ok. Nous avons un petit problème technique de câblage, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de coupure musicale pour l'instant. Voilà. Sinon... est-ce que vos camarades dans vos écoles vous regardent désormais différemment maintenant que trois d'entre vous ont participé donc à ce jury? Est-ce que est-ce que vous les avez mis au courant? Est-ce que ils vous ont demandé de leur prêter les bandes dessinées que vous aviez reçues pour l'élection du prix Actua BD sur les éditions précédentes? Et est-ce que leur regard sur vous a changé justement? Est-ce que ils parlent plus de BD facilement avec vous?
Pas du tout.
D'accord.
Ils ont juste dit qu'on avait de la chance que j'ai eu de la chance de passer à la radio.
D'accord. Et vous et toi alors? J'ai oublié le prénom, Chloé.
Moi je sais pas. Ils trouvent ça cool de faire ce, enfin d'être membre du jury, voilà, et de faire partie aussi du conseil général des jeunes. Ils se demandent comment j'ai fait pour réussir tout ça. Il y a les surveillants aussi qui trouvent ça trop trop bien et tout. Et ouais, il y a mes profs qui me demandent de leur prêter les BD.
C'est le monde à l'envers. Hein.
Oui. pour revenir à la bande dessinée après, mais donc on va quand même dire que vous avez d'autres missions en dehors de l'élection de ce prix Actua BD hein, au cours de l'année. Vous prenez des décisions pour améliorer la vie dans les collèges. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de décisions ou de débats auxquels vous participez ou vos différentes missions au cours de l'année pour vos collèges?
Nous, dans la commission développement durable, on a mis en route la semaine du développement durable où les collèges devaient faire des actions pour gagner des bons d'achat. Une somme pour pouvoir faire installer dans leur collège des choses, c'est pas le mot, mais des choses pour améliorer le développement durable, par exemple, pour récupérer l'eau, et voilà.
Des actions, quoi, d'accord.
Et vous autres hein?
Moi, je suis dans la même commission que Baptiste.
D'accord. Et Chloé?
Nous, par exemple, l'année dernière, on avait mis en place un concours pour que les gens soient plus au courant de ce qu'on pouvait faire au Conseil Général. Donc, on avait mis la vidéo de présentation du Conseil Général qui est sur le site Internet en tant que sujet du concours. Et ils pouvaient visionner la vidéo une seule fois. Et ensuite, ils avaient des questions. Donc, il fallait être bien attentif à la vidéo. Et ensuite, par rapport aux bonnes réponses et au temps où ils ont répondu, ils pouvaient gagner des lots.
D'accord. Et toi, Julie, tu faisais partie de la même commission?
Oui.
Ouais, d'accord.
Mais je voudrais rajouter un truc. On a aussi fait une vidéo sur France 3 qui parlait de l'utilité du portable, enfin des forfaits de portable pour pas qu'ils se fassent avoir par leur forfait, leur contrat.
D'accord. Alors, on va justement revenir à la bande dessinée, puisque nous avons un membre du jury qui est quand même un petit peu exceptionnel, puisque nous avons une dessinatrice carrément dans le jury. Donc, il y a un pied dans la BD, un peu plus que les autres. Donc. Et donc c'est Neva, en fait. Et je crois que tu as gagné un petit truc par ta production.
Oui, il y a eu un concours qui s'appelle « Quels sont les préjugés ?». Donc, on faisait soit un dessin, soit une vidéo. Et donc j'ai décidé de participer, donc j'ai fait un dessin et j'ai gagné le deuxième prix. Donc j'ai gagné 300 euros pour mon collège et un bon d'achat de 40 euros à chapitre que j'ai dépensé dans des affaires de dessin, justement.
D'accord. Et est-ce que cet attrait pour le dessin et cette production dans le dessin, t'es venu avant de participer à ce jury ou c'est ça qui t'a donné envie ?
Bah oui, bien avant. Enfin, c'est quand j'ai commencé à découvrir les mangas, j'ai décidé de me mettre à dessiner. Et comme mon père, il dessine très bien, c'est un peu dans la famille depuis longtemps, parce que c'est de mon grand-père à mon père, à moi, et on dessine tous bien, et en fait, je me suis améliorée, et j'ai décidé de participer au concours, parce que je me suis dit que j'allais sûrement le gagner. Et voilà.
Et est-ce que tu as participé au concours scolaire du festival ?
Non.
Non ?
Et si on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, est-ce que c'est ça que tu veux faire plus tard ou oui,
oui, dessinatrice ou écrivain.
D'accord. Ah ben tiens, on va poser la question aux autres. Vous, c'est quoi votre ambition pour plus tard, vous ?
Devenir vétérinaire.
D'accord, c'est carrément autre chose en fait. Ok.
Vrai, ouais.
Et vous deux, les filles ?
Je sais pas encore.
D'accord.
Moi, c'est plus dans la création du dessin animé, tout ce qui est animation.
On voit qu'il y a un pôle multimédia dans le coin là-bas, avec les vidéos, etc. On voit bien.
Oui. Mais c'est vrai que ici en Charente, il y a ce qu'on appelle la vallée de l'image. Il n'y a pas seulement le festival de la bande dessinée. Il y a le musée, il y a l'école nationale de bande dessinée, il y a l'école nationale de jeux vidéo. Il y a 6 ou 7 studios d'animation qui sont dans Angoulême et autour. Et au fond, c'est là qu'on s'aperçoit que le festival n'est qu'un élément d'une politique générale de l'image en Charente. C'est ce qu'on appelle un pôle image. C'est une décision politique qui a été prise à l'époque de François Mitterrand de créer des espèces de pôles en province, de pôles industriels spécialisés qui permettent à la fois la formation des jeunes et en même temps de créer les emplois. C'est-à-dire, c'est parce que c'est bien de vouloir avoir envie de dessiner de la bande dessinée, mais il faut derrière trouver un emploi ou faire du dessin animé. Et grâce au fait que vous avez ici à Angoulême une école de dessin animé et puis par ailleurs des entreprises qui font du dessin animé, vous avez la chance de réaliser tout ça, ce qui n'est pas possible si vous étiez dans un autre endroit de France.
À Toulouse, par exemple. Je la sentais venir, celle-là. on va revenir peut-être au prix Actua BD avant de décerner le prix. On se donne à peu près 10 minutes pour faire monter le suspense encore. On a parlé de la foire d'Empoignade tout à l'heure qui a viré en tirage au sort. Alors, mon regard d'abord vers le réalisateur de cette émission. Est-ce que le problème concernant la musique a été solutionné, monsieur ?
Ouais, j'ai pris un fer à souder. Il y aura peut-être un tout petit peu de masse, mais ça pourrait aller mieux. On va peut-être passer un morceau de musique. Hein. On va passer, Rise Against et Historia Calamitum. C'était quoi ça au fait ?
Alors, c'est issu de quel CD ça ? Oui, voilà. Alors, on vous a concocté aujourd'hui une production musicale spéciale adaptation de BD. Alors, en l'occurrence, c'est surtout des comics. Donc ça, c'est extrait de la bande originale du film Punisher Warzone. Pour ma part, une excellente adaptation de Punisher, version très série B, Hollywood Night un peu, mais avec...
Antoine. Oui. Antoine, c'est
Antoine, notre spécialiste.
Punisher, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est un comics qui date de quand ? C'est qui l'a créé ?
Court, hein, pas plus d'une heure trente, s'il te plaît.
D'accord. Punisher, je ne vais pas dire quand est-ce que ça a été créé, parce que moi-même, je n'en souviens pas, mais Punisher, c'est la justice expéditive, c'est tout simplement ça, c'est la loi du talon. C'est Frank Castle qui était flic au départ et qui voit sa femme et ses enfants se faire tuer par des pontes de la mafia, et du coup, il décide de faire justice lui-même. Et ça part après dans des délires d'exécution sommaire de gangsters en tout genre, de purification de New York. Et on va dire l'arc narratif le majeur on va dire de Punisher, c'est quand ça a été repris par Garth Ennis et Steve Dillon, qui a été le Welcome Back Frank. C'est Frank qui revient à New York après une série totalement délirante où il était agent du paradis. Enfin, bref, on en reparlera plus tard. Et ça, c'est vraiment l'arc majeur. Et là, justement, le morceau tiré du Punisher Warzone, c'est le troisième film Punisher qui est sorti. Le premier. Le premier était un AV de Flamme.
Non, mais enfin, on peut peut-être rapidement dire quand même que Punisher, c'est pas une BD récente. Elle a été créée en 74 par Gary Conway.
Ouais, ouais. Merci Wikipédia, Didier. Ouais. Hein.
Non, mais il faut faire l'éducation de nos auditeurs quand même. Les
Punisher sont peut-être un peu trop jeunes.
Nous sommes toujours sur Radio FMR 89.1 MHz et également sur le stream de la radio www.radio-fmr.net et en direct du Conseil Général de la Charente pour ce 40e Festival d'Angoulême et cette 5e édition du prix Actua BD Conseil Général des Jeunes de Charente. On y est presque hein, sur cette identité du prix. Nous ne présentons toujours pas notre invité mystérieux. Il va nous faire l'amabilité de répondre dans quelques minutes. Est-ce que justement cette sélection, on en a commencé à en parler tout à l'heure, vous a surpris dans le sens où est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait des BD comme ça qui sortaient, puisque on a quand même choisi des BD à la base qui sont voilà, c'est pas du mainstream, c'est dans les bas-côtés un petit peu. Est-ce que vous attendiez à voir ce genre de bande dessinée?
Moi, non. Enfin, déjà, elles étaient toutes très différentes. C'était, déjà, les styles de dessin étaient tous différents. Enfin, sais pas comment expliquer, mais les histoires aussi, c'était une sélection assez étrange, je trouve. Malgré qu'elle soit bonne, hein, mais...
Étrange, c'est parce que ça partait un peu dans tous les sens.
Voilà.
D'accord.
Le style d'histoire et de dessin...
En fait, ça reflète la diversité de la rédaction d'ActuaBD, parce qu'on a environ 40 contributeurs à ActuaBD, et c'est des contributeurs qui viennent de tous les horizons. On a autour de notre table un geek du comics, on a un autre qui est un geek du geek, on peut dire.
Hein, oui.
Thomas.
Voilà.
Voilà. Et moi, je suis l'incarnation des dinosaures franco-belges. Voilà. Voilà un peu comment ça se répartit. Et donc, effectivement, les choix sont très diversifiés. Et finalement, c'est bien parce que ça permet d'avoir une espèce de panorama de la production actuelle et puis aussi de permettre des découvertes, parce que c'est un peu le but. C'est que vous découvriez des nouveaux auteurs et que ces auteurs, on puisse les distinguer pour qu'ils sortent du lot, quoi.
Alors, je me rends compte qu'on n'a pas mentionné les albums présélectionnés depuis le début de l'émission, donc on va commencer à le faire.
C'était l'autre mystère de l'émission.
Voilà. Donc, nous avions... est-ce que je les ai classés par ordre alphabétique ? Non, donc je vais essayer de le faire au dégoté. Alix Sénator de Valérie Mangin et Thierry Desmarais. Desmarais ou Desmarais, on dit ?
Desmarais, moi, je dirais.
Desmarais, donc chez Casterman. On avait Esteban, tome 4, de Mathieu Bonhomme chez Dupuis. French Kiss, 1986, de Michel Falardeau chez Glénat. Nyurk d'Olivier Vatine, tome 1, donc chez Ankama, et Le Tueur au manga de Yann et Chris Lamke chez Casterman. Et pour la première fois dans ce prix ActuaBD, nous avions une sélection avec deux albums du même éditeur. Oui. Alors c'est marrant, justement, puisque Neva tout à l'heure nous parlait de la sélection qui était très hétéroclite, et puis là en plus le même éditeur propose donc les deux albums les plus éloignés quand même de cette sélection.
Mais oui, parce que d'abord c'est Alix Sénator. Qui a la double caractéristique de perpétuer un personnage ancien, puisqu'il a été créé en 1950 par Jacques Martin, c'est Alix le Gaulois. Donc c'est une BD qui se veut un peu éducative, qui parle de la Rome antique et de la Gaule.
Alors ce qu'il y a de... Je te coupe, c'est ouais. Que comme nous avons affaire à un très jeune jury, c'est qu'on n'est pas obligé de préciser que ce n'est pas l'animateur télé Jacques Martin, puisqu'ils ne connaissent pas l'animateur télé.
Oui,
ça, c'est très pratique, en fait.
Oui, effectivement.
Si
Moi aussi, je le connais.
Ah d'accord, bon, mais honte à moi alors. Je me fais fesser en direct, ok.
Et donc, non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une spin-off, en fait. Comme la BD existait depuis tellement longtemps et commençait le lectorat commençait à vieillir, ils ont eu l'idée de rajeunir la série en vieillissant le personnage.
Oui, c'est un tour de force.
C'est un tour de force. et en fait, ça donne un truc pas mal, finalement, un peu fantastique, avec un dessin qui est très différent de la série classique. Et puis, quant au tueur au manga, là, c'est une espèce de club des cinq un peu modernisé. Est-ce que tu as compris l'allusion qui était faite par rapport au tueur au manga ? Parce qu'il y a eu vraiment un tueur au manga. Ça, tu as suivi cette actualité ?
Oui.
Raconte-nous un peu.
Oui, c'est tombé sur toi parce que tu es juste à côté de Didier et pas de bol.
Ouais, et puis surtout comme tu étais une connaisseuse de manga, je pensais que tu connaissais l'histoire. En fait, ça s'est vraiment passé il y a quelques années à Bruxelles. On a retrouvé le cadavre d'une femme en morceaux.
Et
voilà.
Il y avait sur le corps, il y avait enfin à côté du corps, il y avait un mot qui écrit Watashiwa Kira desu, et ça veut dire je suis Kira.
Ouais.
Et ça fait allusion au manga Death Note, un manga que j'adore avec un
jeune
qui...
Tu vois, on voit qu'elle est connaisseuse.
Ouais. Non, mais alors c'est marrant parce que donc vous imaginez les flics qui trouvent ce cadavre et qui sont obligés de lire les mangas pour pouvoir trouver la clé de l'énigme. et d'ailleurs, finalement, ils ont fini par trouver les vrais coupables et ils sont en prison aujourd'hui, les responsables de cet assassinat. Et donc, ça a inspiré les auteurs qui habitent Bruxelles. Enfin, pas, c'est plutôt Yann, le scénariste, qui habite Bruxelles et qui s'est dit, je vais reprendre ce truc et je vais en faire une aventure Très classique finalement, hein, et pas très manga. Hein.
Non.
Voilà.
Alors, on va pas attendre plus avant de dévoiler donc l'identité de ce prix, puisqu'on pourrait parler aussi des trois autres albums sélectionnés, mais on va peut-être en parler tout à l'heure. Donc, je laisse le soin. Alors, soit vous l'annoncez tous en même temps, soit il y a un porte-parole qui a... tu veux passer de la musique avant.
Ah bah oui, il faut un peu de suspense, le
maître du buzz. Allez, vas-y, je te laisse annoncer le morceau.
Et ouais, en fait, pour une fois, on va passer du mainstream sur Radio Éphémère. C'est Justice, Genesis, hein, qui est toujours pareil sur la bande son de Punisher. En fait.
Ça veut dire quoi, mainstream?
Ça veut dire quelque chose qui est que tout le monde écoute.
D'accord.
Parce que vous savez, hein, sur notre radio, là, alors on est en partenariat avec ActuABD, mais sur notre radio, on n'écoute que des choses qui sont plutôt des faces B ou des trucs qui sont totalement improbables et inconnus. Et même les mangas dont vous parlez, c'est déjà mainstream pour nous. Voilà. D'accord. Voilà, hein, vous voyez, donc là, parce que c'est pour ça que Thomas est le geek des geeks. Voilà.
Pas entendu la suite de l'émission.
Alors, on y va. On écoute donc, Justice, Genesis, toujours sur cette bande son de Punisher. C'était pour faire tenir un peu le suspense, pour savoir quel va être le prix dans quelques instants.
Allez, retour sur Radio FMR 89.1 MHz en direct du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Et donc, on ne fait plus attendre nos auditeurs. Nous laissons au jeune jury du Conseil Général des Jeunes de Charente le soin d'annoncer l'identité du prix ActuABD Conseil Général des Jeunes de Charente. Donc, comme tout à l'heure, je vous le dis...
Pour 2013.
Pour 2013, cette édition 2013, cette cinquième édition. Donc, vous avez un porte-parole, vous voulez l'annoncer en même temps. C'est toi.
Donc, le gagnant est Esteban Tome 4 de Mathieu Bonhomme, éditeur Dupuis.
Bravo. Et alors, vous avez un coup de cœur, non?
Oui, donc c'est French Kiss 1986 de
Michel Fayardeau.
Michel, voilà, Fayardeau.
Chez Glénat.
Oui, voilà. Chez Glénat.
Et donc, voilà. Et donc, maintenant, c'est l'heure de dévoiler l'identité de notre invité mystère. Thomas Louis Côté, bonjour.
Bonjour.
Donc,
Moi, je suis directeur du Festival de la bande dessinée francophone de Québec et je suis un ami de Michel Falardeau.
D'accord.
Directement du Québec.
Donc, Didier, je te laisse le soin de commencer. Ouais, vous allez vous partager le micro. Je pense que le mieux, c'est que tu l'enlèves du pied, en fait. Voilà.
Voilà, c'est fait. Alors, Thomas, qui est Michel Falardeau? Quel est son parcours? Comment il en arrive à cet album-là?
Michel Falardeau est un auteur qui est originaire du bas du fleuve au Québec, donc dans la région de Rimouski, et qui reste maintenant à Québec, donc ma ville, et quelqu'un qui a étudié en dessin animé, jeux vidéo, qui a travaillé un peu dans le domaine et qui s'est dirigé vers la bande dessinée avec un premier album qui était Mertonville chez Paquet. Donc, il a fait 3 volumes et ensuite un album Locke chez Dargo et maintenant French Kiss 1986 chez Glénat, qui était Glénat Québec. De notre côté de l'Atlantique.
Alors, quel est le sujet de French Kiss?
Ben, French Kiss, c'est des parents qui racontent un peu comment ils se sont rencontrés et l'été de 1986 où ils ont vécu plusieurs aventures, des bandes rivales qui s'affrontaient dans des jeux de guerre, si on veut. Et ce qui est drôle, c'est que ça fait référence à plein de choses des années 80 que moi, j'ai 37 ans, que j'ai vécu, j'ai connu les Goonies et toutes ces choses-là. Et au Québec, un film comme La guerre des Tuques qui fait partie des contes pour tous. Donc, chez nous, il y a beaucoup de références dans cet album-là au niveau culturel. Et ben, comme c'est sorti en France, ça a quand même eu une bonne réception. Puis c'est le fun parce que j'espère que certains vont pousser la chose à découvrir justement La guerre des Tuques, qui est un des éléments qui a inspiré beaucoup Michel dans cet album.
Et graphiquement, comment on peut classer son dessin?
Ben, Michel est inspiré beaucoup du jeu vidéo, mais son dessin, certains vont trouver qu'il y a plus un côté manga dans ses actions, les expressions de ses personnages. Donc, c'est un trait très vif et des expressions très, très caricaturées à certains moments. Et ça fait qu'il transpose bien l'action de ses personnages, surtout dans un contexte de un peu de chamaille d'enfant, là.
Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai toujours cru que les Canadiens étaient susceptibles quand on utilisait des mots anglais. Et puis là, non seulement on a un vocable anglais, French kiss. Et puis, est-ce que French kiss, ça a une signification particulière en français?
Je crois que c'est à peu près la même qu'ici. Donc, un French kiss s'embrasser... Goulûment. Donc, c'est la même chose. Donc, l'été des premiers baisers, peut-être, que ça aurait pu peut représenter.
Ça aurait fait peut-être un peu plus fleur bleue. Alors, je me tourne vers le jury. Pourquoi ce coup de cœur pour French Kiss?
En fait, on hésitait. Alors, Baptiste, il voulait qu'on prenne Alix. Donc, toutes les BD étaient géniales. Après, Chloé et Julie préféraient New York. Moi, j'ai préféré French Kiss parce que... parce que oui, il y avait un petit côté manga et puis l'histoire, elle était drôle. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ça se trouve, nos parents, c'était comme ça. Quand ils étaient petits, ils jouaient à la guerre de pirates et tout. Donc j'ai aimé et comme on n'était pas d'accord, on a fait des petits papiers avec les noms des livres dessus. On les a mis dans un pot. Donc c'est la sœur de Julie, comme c'est une main innocente, qui a pioché au pif et c'est tombé sur French Kiss.
Ah, voilà, on a tous les dessous du vote. Et puis, il ne faut pas oublier, on reparlera un petit peu du Québec, de la BD au Québec et au Canada, parce que c'est intéressant de voir comment la bande dessinée est perçue à des milliers de kilomètres d'ici. Puis aussi, vous avez un festival, donc on comparera votre festival à celui d'Angoulême pour un peu voir comment ça se passe. Mais le Grand Prix, c'est quand même Esteban. Enfin, c'est le tome 4 déjà de la série. Et je vais passer le micro à Charles-Louis de Tournai.
Allez, dis oui, prends le micro, Charles-Louis. Bonjour, Charles-Louis.
Bonjour, Charles-Louis. Bonjour à tous. Charles-Louis est le rédacteur en chef d'Actua BD. C'est notre patron vénéré à tous.
Didier, on rajoute un petit peu. Hein. On est surtout une équipe et on essaye d'arriver et de chacun mettre le maximum d'énergie dans le site.
Il n'exagère pas sur le mot vénéré, par contre.
Merci, merci.
Alors, c'est chez Dupuis.
Alors je pense effectivement que cette série, d'abord félicitations au jury pour avoir salué je dirais la série de Mathieu Bonhomme. Donc Esteban est paru chez Dupuis, donc on est déjà au quatrième tome. En réalité les deux premiers tomes étaient auparavant parus dans une autre maison d'édition, mais Dupuis donc a décidé de travailler avec Mathieu Bonhomme en ressortant donc les premiers tomes avec des nouvelles couvertures, et puis le tome 3 est paru l'année dernière si je ne me trompe pas, et le tome 4 ici cette année.
Oui, en fait, c'est une série qui était parue dans une revue qui s'appelle Capsule Cosmique, qui est une revue qui était lancée par Gwen de Bonneval. Et le lien d'ailleurs entre Gwen de Bonneval et Mathieu Bonhomme n'est pas anodin, puisqu'en fait, ils étaient dans le même studio avec plusieurs artistes, ils travaillaient ensemble, et donc ça formait des couples qui ont chacun travaillé de leur côté, notamment. La grande œuvre de l'association Gwen de Bonneval et Mathieu Bonhomme, c'est la série Messire Guillaume qui paraît dans Spirou et qui est une merveille, qui évoque un Moyen-Âge mythologique.
Je crois que la grande force effectivement de Mathieu Bonhomme, outre son trait qui a un très très beau rendu, c'est effectivement la poésie qui se dégage de ses pages. Et donc, mais avant tout ça, j'aimerais peut-être que le jury puisse nous expliquer qu'est-ce qui leur a plu, effectivement, dans cette série Esteban, parce que c'est bien entendu ce public-là qui est visé. Ne vous battez pas.
Qui veut prendre la parole? Qui c'est qui a soutenu ardemment cette série plus que les autres ici?
Est-ce que c'est les filles ou le garçon?
Bah, ce sont plus les filles. Parce qu'on a bien. Enfin, on a trouvé les dessins jolis, les actions bien décrites.
Et puis il est beau, Esteban, non?
C'est pas forcément ça, c'est qu'il a il a un rôle assez important, enfin c'est le rôle principal, mais il joue un beau rôle, je trouve, dans le livre.
Vous pouvez expliquer peut-être un petit peu donc le livre, est-ce que vous avez lu l'histoire, que raconte-t-elle?
Elle raconte l'histoire de Esteban qui a des copains pirates prisonniers, et il va essayer de les délivrer en allant travailler dans cette prison.
Donc pour finir, on le retrouve lui-même comme gardien, on va dire, comme maton dans la prison, c'est bien ça?
Oui.
Alors c'est assez spécial le fait qu'un tome 4 soit récompensé, puisque du coup, ça m'étonnerait que vous ayez pu lire les trois premiers tomes, et vous êtes quand même décidé sur le prix à partir d'une série qui est prise en cours de route, du coup.
C'est-à-dire qu'en lisant le quatrième, on
se doute.
Ouais, voilà, on se doute du début déjà. Donc.
Alors le prix... lui, c'est un prix sur lequel vous aviez l'unanimité, ou ça s'est encore fait à la roulette?
Non, on avait l'unanimité. Il y en avait 3 contre 4.
D'accord. Alors, est-ce que c'est un genre de bande dessinée que vous connaissiez? Est-ce que pourquoi on rigole là?
Non, parce que 3 contre 4, ça voudrait dire qu'il y ait 7 jurés. Mais bon, d'accord, c'est bon, on avait compris 3 contre 1, oui.
Moi, je compte plus. Je suis au troisième jour d'Angoulême, je compte plus. Donc, est-ce que c'est un genre de bande dessinée que vous aviez déjà vu par ailleurs, ou c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour vous?
Moi, personnellement, je crois que j'avais... Enfin, déjà, l'an dernier, quand je suis venue au festival, comme tous les ans, j'avais lu un truc, enfin... un tract,
je me comprends.
Un flyer,
c'est déjà bien si tu comprends.
Un tract, c'est un tract, c'est ça. Oui, oui, bon, enfin, un tract, c'est pas faux.
J'ai vu que...
Une publicité, quoi.
Voilà, j'ai vu un genre de publicité d'Esteban et j'avais déjà vu un petit peu. Donc, en lisant le tome 4, je m'en suis rappelé et...
Et par rapport au BD que vous lisez, est-ce que vous trouvez ça moderne ou plutôt normal Toi, par exemple, qui est un grand lecteur de BD classiques.
Un grand lecteur, non, mais c'est normal. Hein.
Ouais.
Je trouve ça intéressant, Didier, parce que Mathieu Bonhomme donc, a fait pas mal de séries. On l'a vu dans Le Marquis d'Ananaon, entre autres. Comme
avec Fabien Wellman au scénario.
Et effectivement.
Qui fait partie d'ailleurs du même studio. Hein, donc, toi qui veux devenir dessinatrice, sache qu'un bon moyen de progresser, c'est de travailler avec d'autres artistes du même âge et de former des studios. Parce qu'on regarde ses dessins l'un l'autre et en même temps, on apprend des trucs les uns des autres. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et donc,
c'est le cas dans tous les domaines de la création.
Voilà. Et donc. Fabien Wellman, Gwen de Bonneval et Mathieu Bonhomme étaient tous dans le même studio de dessin.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il a fait des séries qui étaient peut-être un petit peu plus portées vers les adultes, comme Le Marquis d'Ananaon, entre autres, mais que son dessin a suffisamment de force pour effectivement passer également auprès du public peut-être un peu plus jeune. Hein. On en parlait de Messire Guillaume tout à l'heure, qui même si c'est une série qui s'adresse effectivement aux plus jeunes. Il y a énormément donc, de caractère et de volonté derrière. Et je suis très content que vous ayez pu primer donc cette série. Donc c'est vraiment la récompense, je pense, ultime pour Mathieu Bonhomme de dire que les jeunes eux-mêmes apprécient son dessin et apprécient les aventures qu'il peut faire, même s'il a une palette suffisamment large que pour pouvoir s'adresser à différents types de publics.
Oui, elle est tellement large d'ailleurs qu'il y a une autre nouveauté qui est parue cette année à côté d'Esteban, c'est Texas Cowboy, dont le scénario est de Lewis Trondheim. Et qui est une espèce de Kill Bill pour jeunes, quoi. Je sais pas comment pour. J'ai envie de donner cette définition parce que c'est complètement déjanté.
Ça donne envie en tout cas.
Ouais. Et donc oui, on a affaire avec Mathieu Bonhomme à un auteur qui va probablement recueillir un grand nombre de prix dans les années à venir. C'est un des grands auteurs de la nouvelle génération. Donc vous avez vraiment l'œil, hein, le jury. Hein. Vous avez été très bon cette année, je trouve. Hein.
Parce que les autres années, tu trouvais qu'ils étaient moins bons.
Non, ils n'étaient pas. Non, justement, vous avez tous le très bon chaque année, ouais, c'est vrai. Non, mais cette année, c'est un bon choix encore une fois de plus.
Oui, tout à fait. Et donc, je voulais juste encore revenir moi sur le prix donc pour French Kiss 1986. Donc, je suis ravi que vous l'ayez primé également parce que c'est moi qui ai défendu ce livre au sein de la rédaction d'Actua BD. Ce que je voulais donc revenir, c'est qu'effectivement, sur la thématique du livre, il s'agit donc bien d'enfants qui jouent une guerre des pirates, mais qui en même temps, si je peux encore te redonner la parole, on parle surtout de l'âge adulte, en fait, où des jeux d'enfants, on s'approche tout doucement, je dirais, d'une intimité et du passage, donc effectivement, vers cet âge adulte important.
Effectivement. Mais c'est un peu la même thématique. Je parlais du film La Guerre des Tuques, qu'on voit vraiment le lien quand on a vu ce film-là. C'est vraiment le passage d'un été transitoire qui est vraiment important dans une vie où on apprend plein de choses qui nous amènent vers l'âge adulte. Là. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans ce livre-là.
La façon dont tu en parles, donc on entend comme tu as pu apprécier, je dirais, ce livre. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de petits souvenirs pour les personnes qui ont peut-être entre 30 et 40 ans. On parle de dessins animés, des mystérieuses cités d'or, dont on va bien sûr parler très prochainement, mais on parle de plein de choses qui parlent pour finir à une génération peut-être comme la nôtre. Et en même temps, on a vu que le livre peut toucher une génération directe de jeunes qui n'a peut-être pas ses références, mais qui a pu être également intéressé par le bouquin.
Mais c'est une deuxième lecture qui est faite probablement par les jeunes. Nous, c'est vraiment la nostalgie de jeunesse, de dire, oh, on a vécu ça aussi, on a vu un été où... Des groupes qui se sont formés et tout, mais pour les jeunes de voir qui le vivent présentement ou qui l'ont vécu plus récemment, ça fait que ça donne une autre vision de la chose.
Et est-ce que tu sais si Michel avait vraiment voulu donner ses différents degrés de lecture ou s'il l'avait d'abord écrit pour ses propres références à lui et il se fait que c'est peut-être lisible effectivement par des jeunes ?
Je pense que c'était voulu que ce soit quand même pour un large public. C'est sûr que lui est parti de ses références à lui parce qu'il y a un côté autobiographique où il a impliqué dans les personnages qu'il a intégrés dans l'histoire. C'est des gens qu'il a connus quand il était jeune. Ça se passe dans son village. Je veux dire, c'est ses amis proches, des amis qui sont encore avec lui aussi, qui sont là-dedans. Donc, les choses que lui a vécues, mais en même temps, c'est des choses qu'on a tous vécues de différentes façons, là.
Encore un dernier mot par rapport à ce livre. Si on compare avec Esteban, qui est peut-être une facture plus classique, où on a un format A4 standard avec 46 pages. Par contre, Frenchries 1986 se rapproche presque du roman graphique parce qu'on a une densité de pages et un plus petit format.
Ben, c'est dans Glénat Québec qu'on a des formats qui sont parfois variables. Ça, c'est un format si on regarde les jeunes qui aiment les mangas, ils sont habitués à des formats plus petits. Ça, il va chercher un format qui est un peu intermédiaire entre le format de la BD classique et tout. Donc, je pense que c'est un format qui a été choisi spécifiquement pour ça, là.
Mais c'est un format qui convient bien. Je pense que si jamais on avait publié cette série, enfin en tout cas French Kiss 1986, en deux ou trois tomes, à mon avis, il n'aurait pas pu rencontrer son public parce que les gens auraient peut-être mal compris au début tout ce qu'il y avait derrière.
Alors, on va peut-être faire une coupure musicale avant pour respirer un petit peu, peut-être à moins que Didier ait une
question sur ce. Juste une toute petite question que je voudrais poser au jury. Est-ce que vous aviez soupçonné que l'auteur était canadien en lisant la BD ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Il n'y avait, oui, avait pas de tournure de phrase un peu bizarre. Est-ce que dans les bulles, il y avait un accent ?
C'est vrai qu'il y avait, des phrases qui n'étaient pas comme en France. Mais moi, je savais que c'était québécois parce qu'on a une feuille avec qui décrivait. Donc, c'était écrit.
Ah oui, vous aviez eu un communiqué de presse qui vous disait que l'auteur était québécois. Donc, vous étiez un peu prévenu.
C'est bien de lire les communiqués de presse. C'est pas le cas de tout le monde. Hein.
Voilà, les journalistes ne le font pas toujours.
Non, mais Didier, c'est comme si tu demandais si on voyait qu'un auteur est belge. Est-ce qu'il y a des tournures de phrases bizarres quand tu es belge et que tu es auteur?
Ceci est un très mauvais sujet. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que belge, j'écris effectivement les articles. Et puis Didier, qui est belge aussi, mais qui a plus de culture française que moi, repasse derrière moi parce que j'ai des tournures de phrases très belges et qu'en France, vous n'employez pas.
J'enlève tous les belgicismes. Et je voudrais dire que oui, les bandes dessinées belges ont une étrangeté. Et par exemple, un auteur comme Yves Chaland remarquait dans les bandes dessinées de Gaston Lagaffe ou de Spirou que les feux rouges, les costumes des flics n'étaient pas les mêmes qu'en France. Et donc, oui, il y a une espèce d'étrangeté qui parfois transpire des albums.
Et ben, il y a des albums comme Magasin Général justement qui jouent sur ce fait-là où le parler québécois est très bien exploité et justement et qui est écrit par quand même des Français, donc c'est le fun de voir que ça c'est passe partout parce qu'il y a des choses comme Michel Rabagliati aussi qui est purement québécois mais qui est dans un français international là, sinon.
Mais on retrouve de plus en plus hein, des auteurs québécois. J'ai encore mangé hier avec Jacques Lamontagne qui fait Les Druides, entre autres, et qui travaille aussi avec Thierry Glory sur Aspic, des séries également que je vous conseille. Mais je crois que c'est le moment de passer un petit moment musical et on se retrouvera juste après.
Et c'est ça, oui, tout à fait. On va écouter Kai's Choice, Virgin Side of Mind. Toujours, alors ça, c'est issu d'une bande son de Buffy. Voilà, Buffy qui était à l'origine aussi une BD, non c'est...
Qui est devenue une
BD, oui, je suis désolé. Moi, ça fait longtemps. J'ai une question à poser, parce que moi, je suis un vieux, là, tout ça. Est-ce qu'il existe toujours des revues que, dans les années 80, au début des années 80, comme Sortez la chienne, tout ça, c'était des revues qui étaient ce qu'on appelait des gravezines. Parce que tout à l'heure, on parlait de ces objets qui sont un peu entre l'album BD traditionnel et l'objet un peu artistique. Est-ce que ça existe toujours, ça, en fait?
Au 21e siècle, ouais. Il y a un truc qui s'appelle les blogs font un peu fonction de...
Qui font la même chose. Bon, c'est parfait. Alors c'est bien hein, ce genre de choses. Hein. Il y a toujours un peu d'interaction entre les différents arts. Et donc là, c'est le 7e et le 9e art hein, qui se rencontrent. Buffy, et donc c'est Kai's Choice, Virgin State of Mind.
Pencil and I wrote, following on it.
Sur Radio FMR 89.1 MHz et sur le stream de la radio www.radio-fmr.net en direct du Conseil Général de Charente du Festival dans, de la bande dessinée d'Angoulême, la 40e édition. Le jeune jury nous a dévoilé l'identité du prix Actua BD Conseil Général des Jeunes de Charente tout à l'heure, qui était Esteban tome 4 de Mathieu Bonhomme chez Dupuis. Le prix coup de cœur, donc c'était French Kiss 1986 de Michel Falardeau chez Glénat. Et une question de notre rédacteur en chef bien-aimé d'Actua BD qui demandait, donc Charles-Louis, nous étions permis en fait d'inclure dans cette présélection des 5 albums une BD qui était un peu plus violente que les autres. On s'était posé des questions sur ce choix, on s'était dit... Ça nous intéressait en fait de voir vos regards en fait sur cette BD, et on aimerait bien avoir votre avis sur ce tueur au manga de Chris Lemke et Yann.
Est-ce que vous avez trouvé violente d'abord?
Un petit peu, oui, un peu gore. Ouais, voilà.
C'est ça. Moi, il y a certaines planches effectivement où je m'étais dit. Peut-être ne pas mettre entre toutes les mains. Donc juste pour expliquer à nos auditeurs, il y a effectivement des meurtres qui se déroulent dans ce tueur au manga, et alors on est face à un corps un petit peu démembré dans un parc, et je m'étais demandé si vous étiez si vous n'alliez pas être choqué, je dirais, par effectivement cette planche.
Non, enfin pas choqué, mais enfin, parce que moi, je lis déjà des trucs un peu gore, comme High School of the Dead ou des trucs comme ça, donc avec des zombies. Au début, j'avais pas compris que ça faisait allusion au meurtre qui s'était passé à Bruxelles il y a quelques années ou quelques mois.
Quelques années.
Oui, quelques années. Et,
c'était dans la région, effectivement, de Bruxelles, un peu plus au sud, en fait. Mais bon.
Non, c'était carrément à Bruxelles, en fait, c'était à Saint-Gilles.
Ok, non, je suis en train de penser aux épisodes de Mons également. Enfin, on va pas faire une série gore sur tous les crimes horribles qui se déroulent en Belgique.
De toute façon, en Belgique, les distances sont très rapprochées hein, quand même. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, c'est à 20 km, 30 km, 40 km, 80 km maximum.
Ça me rappelle un éditorial de Philippe Bouvard où il commence par lire une chronique où il marquait on a trouvé une femme coupée en morceaux à Mons. Et puis la deuxième chronique, c'est. Les Liégeois veulent rattacher la France à la Belgique. Et la conclusion de Philippe Bouvard, c'est de dire le rattachisme commence mal.
Donc en tout cas, par rapport, pour revenir au tueur en manga, donc, ça, vous a un, ça ne vous a pas choqué, mais vous étiez un petit peu déstabilisé ?
Ouais. Enfin, bah, l'histoire, elle, elle est pas mal, mais enfin, je ne sais pas, des adolescents de 13 ans qui essayent d'arrêter un tueur, enfin, c'est pas... enfin, moi, je sais qu'à 13 ans, je n'aurais pas fait ça.
C'est pas crédible, quoi.
Voilà, c'est pas trop crédible. Et puis par contre, comme je n'avais pas trop compris que ça faisait allusion au meurtre à Bruxelles, quand j'ai vu qu'il se moquait, enfin, moi je pensais qu'il se moquait du manga Death Note et bah ça m'a pas plu parce que c'est un manga que j'adore, donc il se moque de Kira, je me suis dit, c'est pas bien.
Donc Yann, si tu nous écoutes, tu vois, c'est pas crédible, hein, les enquêteurs de 13 ans.
Non, je pense que la série, en tout cas, est très bien, mais je ne suis pas certain qu'effectivement le public, enfin, vous soyez directement le public enfin, cible.
Moi, je l'ai défendu au sein de la rédaction parce que je considérais que ce niveau de violence, on le voit. Tous les soirs sur le 20h de ce,
oui, et puis les
sur la télé,
les experts,
quoi.
NCIS, pas toutes les séries américaines qui passent en prime time. Hein.
Vous regardez des feuilletons comme Les Experts, tout ça ?
Oui, et je regarde tous les trucs policiers qui peuvent passer à la télé.
Voilà, donc.
Et tu pourrais être plus choqué par quelque chose que tu lis en bande dessinée par rapport à quelque chose que tu vois à la télévision ? Le média est différent ou
non,
tu te dis
ça,
non, c'est pareil ?
Ça m'a pas choqué spécialement parce que, ouais, comme il disait, on a l'habitude de voir aux informations des choses comme ça, des meurtres, tout ça. Donc, personnellement, ça ne m'a pas choqué plus que ça.
Attends, moi, j'ai une question, Didier, parce que tu nous as dit que le tueur au manga, c'était une sorte de Club des Cinq. Moi, j'ai une question. C'est ce qu'il y a d'Agobert ?
Non, mais...
non, il y a un furet, par contre.
Voilà. Voilà, non, mais c'est ça. C'est un groupe d'ados qui a une aventure et qui fait une enquête. Et donc, ça ressemble beaucoup à un schéma d'aventure qui était celui du Club des Cinq. Hein.
Oui, tout à fait. Ça, on est là-dessus. En même temps, tu parlais des experts. On a effectivement un côté très feuilleton, je dirais, à l'américaine. Donc, on s'y trouve bien. Et puis, il y a une très belle représentation de la ville de Bruxelles. Hein, je veux dire, en termes graphiques, Chris Lanquet a fait un superbe boulot.
Oui, absolument, avec la représentation du musée d'histoire naturelle de Bruxelles.
Entre autres, mais il y a des passages de Saint-Gilles, enfin, il y a des très belles maisons, il y a une belle évocation, et puis tout l'aspect même dans les parcs, je trouve que c'est globalement un très bon album.
Voilà. Bon, et du coup, juste un dernier point, puisqu'on a sur le jury, enfin sur la sélection de 5 albums, on a parlé de 4 sur 5, donc on va dire un petit mot sur le dernier, puisque c'était, vous avez vu qu'on avait fait quand même un topo assez général sur les genres en BD, le dernier c'est la BD post-apocalyptique, puisque c'était donc Nurk. Un petit commentaire à faire sur l'album.
C'est de la science-fiction.
Oui, c'est assez bizarre quand même, parce qu'on arrive, on voit un bateau qui balance des fûts nucléaires. Après, on repasse dans l'ancien temps ou dans le futur, un peu à l'âge de pierre. On voit, ça fait allusion à des villes qui sont comme San Francisco, donc c'est assez bizarre.
Donc tu as été quoi, déstabilisé, tu comprenais pas vraiment comment est-ce que la BD était faite.
Pas déstabilisé, mais c'est vrai que je crois que c'est la première fois que je vois une BD comme ça.
Tu n'as pas accroché en fait.
Alors pour la petite histoire, un truc rigolo, c'est que c'est inspiré donc d'un grand romancier français de science-fiction dont le pseudo était Stéphane Vull et qui dans la vraie vie était dentiste.
Ouais, alors moi j'ai bien connu Stéphane Vull.
Oui, alors t'as vu l'intro, t'as vu le.
Ouais, merci. Non, j'ai bien connu Stéphane Vull. Effectivement, c'est quelqu'un qui était dentiste toute sa vie et toutes ses œuvres qui sont considérables, il les a écrites sur sa table de cuisine après ses heures et pendant l'heure du déjeuner. Et il habitait un village. Il habitait dans un vieux presbytère dans un village qui s'appelle Épier. Et il adorait dire je suis le dentiste des pieds. un soir on lui a rendu hommage au centre Wallonie-Bruxelles parce que je travaillais à l'époque pour les éditions Lefranc qui avait fait l'intégrale de ses romans et c'était, il avait déjà 83 ans, il était venu avec son épouse ce soir-là. C'était un hommage assez exceptionnel parce que on avait le parterre de la science-fiction française. Il y avait des gens comme Wagner, tous les grands écrivains contemporains de science-fiction, et Moebius. Et on a assisté pendant une heure à un véritable dialogue amoureux entre Moebius et Stéphane Vull. Stéphane Vull disant que Moebius était un génie, Moebius disant que Stéphane Vull était un génie. Et puis, le débat se termine. Et à ce moment-là, Stéphane Vull dit, mais je suis content de me trouver dans cette maison qui est le centre Wallonie-Bruxelles, maison belge. Et il dit, vous ne savez peut-être pas, mais dans ma jeunesse, j'ai fait du cabaret. Donc avant d'être dentiste, il avait fait du cabaret.
Tu me fais peur, Didier.
Ouais. Et non, donc il chantait, il déclamait des poèmes dans un cabaret et il nous a fait... il nous a déclamé un poème du poète belge Émile Verhaeren et avec des bruitages et des trucs comme ça, et on voyait ce vieux bonhomme de 83 ans nous faire un spectacle absolument extraordinaire. Et donc oui, j'ai un souvenir de Stéphane Vull qui est complètement extraordinaire, et franchement je me retourne vers toi, je pense que c'est un auteur qu'il faut découvrir peut-être en roman, parce que ce sont des univers très riches, très truculents, et en plus c'est pas une écriture très difficile à lire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très très populaire. Moebius avait fait un dessin animé qui s'appelait Les Maîtres du Temps, qui était également inspiré de Stéphane Vull.
Co-réalisé avec Topor.
Non, c'était
René Laloux.
C'était René Laloux, oui, et Laloux. Et d'ailleurs, René Laloux a donné le nom à une des salles de la cité de la BD. Dans le nouveau vaisseau Moebius, il y a une des salles de spectacle qui s'appelle René Laloux, en hommage précisément à ce film-là.
Ok, je reviens quand même encore un instant sur N'Yourk. Didier, toi qui as bien lu, je dirais, toute l'œuvre de l'auteur, de Stéphane Vull, est-ce que tu as lu ce que Ankama est en train de faire ? Parce que Thomas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais donc Ankama est en train de réaliser toute une série de 7 ou 8 adaptations donc, de l'œuvre majeure de Stéphane Vull. Est-ce que toi, tu as lu les BD, Didier ?
Je les ai parcourus, je ne les ai pas vraiment analysés. Ce sont... En fait, ils veulent carrément faire l'intégrale de l'œuvre de Vull en BD. Et c'était un souhait de Stéphane Vull. Sauf qu'il aurait voulu que ce soit Moebius qui le fasse, et ça n'a jamais pu se faire parce que Moebius était très chargé déjà par ses propres projets.
Donc c'est une série d'adaptations qui est orchestrée en fait par Olivier Vatine via aussi... C'est une coédition avec Comics Bureau. Donc pour l'instant, il y a trois séries qui ont commencé, puisque ça va être sur plusieurs tomes, pas beaucoup de tomes, 2 ou 3.
Et avec des scénaristes différents. Le dernier, c'est Yann, qui a fait d'ailleurs Le Tueur au manga.
Ah oui, Yann avec Casgrain.
Casgrain, ouais. Voilà, qui est pour, ouais. sur Piège sur Zarkas, qui est, on va dire, un pendant d'un peu d'orbital, c'est-à-dire c'est deux envoyées femmes sur une planète pour découvrir l'identité de mystérieux vaisseaux spatiaux triangulaires. Et ça c'est une plongée dans l'écosystème d'une planète, et c'est très dépaysant, très exotique. Et on s'aperçoit au cours de l'album que les deux nanas qui sont envoyées ont des motifs personnels très très cachés qu'on apprend au fur et à mesure. Donc N'Yourk, on en a parlé. Et le dernier, c'est Hommes en série, qui retourne justement le concept d'animal domestique et humain. Et dans cet univers, ce sont des extraterrestres qui sont les maîtres des humains, qui sont considérés comme nos animaux domestiques aujourd'hui. Donc le rapport est inversé, et ça permet de se plonger un petit peu de ce que ressentent les animaux, même s'ils sont bien traités, ils sont quand même dans des cages. Et ça, c'est une œuvre de science-fiction qu'il faut lire aussi, qui est très très abordable.
Et donc il s'agit de séries qui vont être composées, donc sont des one-shot, ou ce sont 2 tomes, 3 tomes à chaque fois?
Oui, voilà, 2 tomes ou 3 tomes à chaque fois.
Des mini-séries à chaque fois. Ouais. Et donc N'Yourk, ça fait allusion à New York, évidemment. Voilà.
On va peut-être libérer nos jeunes jurés du jury du Conseil Général des Jeunes de Charente. On va les laisser faire les photos avec le prix, et avec notre ami Thomas-Louis Côté... qui représente donc Michel Falardeau ici, officieusement. Voilà.
Il ne savait pas lui-même, on serait bien ce matin, ce qu'il allait faire. La vie est une grande surprise, surtout avec nous.
Voilà, allez, on vous propose une nouvelle coupure musicale. Je vais passer le micro à Kinou pendant que nous libérons nos jeunes jurés.
On les remercie encore.
Voilà, on remercie tout le monde autour de cette table. Il est quelque part comme 13h10, heure toulousaine, mais heure angoulémoise, pareil, je pense. Et après, pour les gens qui sont ailleurs, vous regardez votre fuseau horaire, vous saurez peut-être qu'en Belgique, c'est la même heure aussi.
Oui, il faut préciser que l'émission ne s'arrête pas juste après la coupure musicale. Nous revenons avec la rédaction d'Actua BD sur le festival et sur l'année 2012. Oui, Didier, tu as quelque chose à ajouter?
Oui, je voulais juste dire quelque chose aux membres du jury. Parce qu'évidemment, vous avez voté pour un auteur canadien. C'était un peu compliqué de le faire venir. On a l'habitude de faire venir les auteurs. Et puis, on n'a pas de chance parce que Esteban est publié par les éditions Dupuis, qui ne sont pas présents sur le festival d'Angoulême. En revanche... les éditions du PIM me font savoir que vous allez chacun recevoir un album dédicacé de l'auteur pour vous remercier d'avoir participé à ce jury.
Et vous le saurez pour l'année prochaine. On essaiera d'en venir avec des moyens techniques qui nous permettront de pouvoir contacter les personnes, même si c'est un Chinois, un Taïwanais, un Mongol ou un Irkout. Tout ira très bien. On écoute donc sur les ondes radio éphémères 13h11, 13h13 sur l'heure toulousaine, comme je disais tout à l'heure, sur le 89.1 MHz. On écoute Hepburn, I Quit. Toujours pareil, c'était sur la bande de son de Buffy et les vampires. Alors déjà, moi, je connaissais même pas la série et en plus, je connaissais même pas la BD. C'est terrible. Ah, alors là, c'est terrible. Alors hop, là, il y a du. Toujours sur le 89.1 MHz de la bande FM à Toulouse, www.radio-éphémère.net pour nous écouter ailleurs, pour savoir comment nous écouter aussi sur des moyens technologiques comme comme, ben, comme les Android, les smartphones, les applications, les tablettes, bref, tout ça. Nous sommes toujours en direct d'Angoulême pour le 40e festival de BD d'Angoulême. C'est toujours Supplément Week-end, mais toute l'équipe m'a abandonné, donc je suis tout seul. Alors, voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Xavier, si tu nous entends, tu sauras que tes petits camarades de jeu sont partis et m'ont laissé le micro. Donc, je vais squatter un peu quelques minutes le temps qu'ils reviennent, toujours en compagnie d'ActuaBD, donc un partenariat avec ActuaBD pour cette édition du Festival de BD d'Angoulême. On va écouter un morceau de Morshiba sur les ondes de radio éphémère 89.1 MHz tout de suite. Voilà, ça va partir.
Retour sur Radio Éphémère 89.1 MHz sur Toulouse uniquement et sinon sur le stream radio-éphémère.net. On est un peu essoufflé puisqu'on est allé faire la photo des jeunes jurés avec le prix dehors. Ça nous a permis de profiter du beau soleil à Angoulême.
Oui, c'est ce que j'expliquais aux auditrices, aux auditeurs.
D'accord, donc on fait bis repetita placens, c'est génial. Donc on laisse les membres de la rédaction d'ActuaBD nous rejoindre et mettre les micros, les casques et finir de avaler quelques cacahuètes. Alors que Thomas Louis Côté est toujours parmi nous. Maintenant nous allons aborder un petit peu le côté BDesque de cette manifestation. Nous allons laisser de côté le prix ActuaBD, Conseil général des jeunes de Charente, pour parler un petit peu de cette 40e édition de ce festival d'Angoulême, ainsi que un retour sur cette année 2012 en bulle. Alors, le temps que je reprenne mon souffle, je reprends ma fiche avec le conducteur, voilà, on y est. On commence par le festival, si vous voulez bien. Donc là, on est samedi, donc il reste encore une journée et demie de festival cet après-midi et demain. Demain sera proclamé...
Une journée et une nuit.
Ah oui, c'est très important.
Oui, c'est très important.
Avec ce fameux hôtel qu'on peut mentionner. Hein. Non, non, c'est pas mentionné. Alors que tous les auteurs sur leur blog respectif mentionnent le nom de l'hôtel et nous sommes interdits de le mentionner.
Non, non, écoute, on peut, mais on doit en citer trois.
Oui, c'est ça. C'est l'hôtel Jupiter.
On va rester sur l'hôtel
Jupiter. Il y a l'hôtel Poséidon aussi.
Oui. C'est pas pareil, c'est Neptune, puisque là, on est dans les noms romains.
Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Ouais. Ah ouais, ouais.
Bon, passons. Enfin, juste pour vous dire qu'effectivement, la journée, c'est important donc, sur Angoulême, mais que donc, la nuit, les auteurs en profitent pour essayer de se voir, courir d'une chose à l'autre, et qu'effectivement, comme dit Didier, il reste une nuit pour les auteurs.
Et pas seulement que les auteurs. Par exemple, hier soir, je suis rentré à 3h du matin, parce qu'avant, j'étais boire la camomille chez le producteur de Port du Noir, Prima Linea, et qui se trouvait là. Le directeur des éditions Dupuis, Serge Honoré, qui repartait le lendemain par le train de 10 heures. Donc, je ne l'aurais pas rencontré à Angoulême si je ne l'avais pas vu là.
À mon avis, Sergio a donc dû très peu dormir.
Il a très peu dormi, effectivement.
On se demande pourquoi est-ce qu'il y a des chambres d'hôtel, d'ailleurs, dans ces hôtels.
Parce qu'on dort dans les trains.
Ah, voilà.
Mais du coup, c'est bien, amis journalistes ou membres de la bande dessinée de Tout Poil, si on vous propose une camomille un soir, vous dites oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Voilà.
Alors, ce 40e festival, donc...
Oui, mais on peut boire des camomilles, mais pas avec n'importe qui.
Oui. Sinon, oui, alors, pendant la cérémonie d'ouverture, il y a eu une phrase que j'ai trouvée exceptionnelle qui a été dite, c'était « Nous sommes... » D'ailleurs, c'est Charles-Louis qui me l'a fait remarquer. « Cette 40e édition, et c'est un anniversaire. »
Oui, oui, il faut bien dire que c'est un anniversaire parce que je n'ai pas toujours l'impression qu'on s'en rende compte. Heureusement, il y a des petits drapeaux que gentiment le festival a édités et qui permettent de savoir qu'il s'agit d'un anniversaire. Je me serais attendu, j'avoue, à effectivement quelque chose d'un peu plus fastueux. Mais donc voilà, c'est peut-être le festival a voulu peut-être mettre la priorité sur les auteurs et pas vraiment sur une façon de fêter, je dirais, cet anniversaire. Moi, je suis un peu déçu.
Par contre, ils ont voulu marquer effectivement d'une pierre blanche le nom des auteurs de prestige qu'ils ont reçus, puisqu'ils ont tapé dans le manga, le comics et la BD franco-belge. C'est pas n'importe qui qu'ils ont invité cette année. Albert Uderzo pour la BD franco-belge, Leiji Matsumoto, créateur de Captain Harlock pour le manga, et Don Rosa pour le comics. Donc, je pense que de ce côté-là, ils ont bien joué.
Pour Mickey, plutôt, parce que c'est Mickey. Enfin,
pour le côté
Mickey,
BD américain.
Ça va bien au-delà du comics. Ouais.
Oui, oui, oui. Oui. Hmm. Don Rosa, Mickey et Donna des Picsou aussi.
Absolument, oui, 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 c'est un des dessinateurs historiques de Donald des Picsou.
Avec Karl Marx.
Alors, quelques mots sur ces trois auteurs qui ont attiré un peu les projecteurs cette année. Qui c'est qui a vu Don Rosa? Alors, je vois une mine déconfite à côté de moi, puisque c'était. Je crois que tu voulais y aller à la conférence de Don Rosa, mais
ouais,
finalement.
Ouais, mais j'ai pas pu.
T'es à glisser, tu t'es paumé. C'est
ouais,
ça.
J'ai glissé, chef, et puis j'ai pas pu y aller, donc tout simplement. Donc du coup, Don Rosa était à Lille l'année dernière. Donc
voilà, et donc je m'inquiète pas trop parce que je sais qu'on a fait une interview de Don Rosa. Donc sur ActuAVD, on aura un de ces jours, si Florian Rubil veut bien, une interview de Don Rosa.
Donc quelques mots sur Don Rosa quand même pour dire qui est le bonhomme, parce qu'on a dit Mickey, mais est-ce que c'est lui qui a créé Mickey? Qu'est-ce qu'il a fait de
mais
Mickey
non, Mickey a été créé par un animateur qui travaillait pour Walt Disney qui s'appelait Hub Iwerks. Je le dis sous ton contrôle. Ensuite, dès 1930, en fait, dès avril 1930, Mickey va être confié à un assistant qui s'appelle Floyd Gottfredson, qui va être vraiment le créateur des BD de Mickey qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, des personnages nouveaux vont venir s'installer, sous des nouvelles signatures. C'est Karl Barks qui crée Donald, je crois, à partir de 1934. Et Don Rosa, au fond, c'est la dernière génération des grands créateurs de Mickey. Il faut savoir quand même que Mickey avait un système très particulier de production. C'est qu'il y avait 6 ou 7 studios dans le monde qui produisaient des bandes dessinées Mickey en même temps. Un studio au Danemark, un autre en Espagne, un autre en Italie, un autre au Brésil. Et donc Don Rosa, c'est la branche espagnole, je crois, ou italienne.
Italienne.
C'est italien. Donc, et encore aujourd'hui, Topolino, qui est le nom italien de Mickey, reste un des personnages les plus populaire de la péninsule. Et c'est moins important qu'avant, mais il faut se rendre compte que le journal de Mickey, par exemple en Allemagne, publiait plus d'un million d'exemplaires par semaine. C'est ce qui était plus important que le Spiegel ou le Bild, quoi. Donc les journaux politiques arrivaient après Mickey.
Je crois qu'il faut aussi saluer le travail que Glénat réalise depuis maintenant près de 5 ans en remettant vraiment en valeur de manière patrimoniale les œuvres de Disney. Donc on a différentes intégrales dans différents formats qui sont donc publiées. Et si jamais nos éditeurs effectivement ont un intérêt, car tout le monde connaît bien effectivement le travail de Disney, mais je crois que c'est une très agréable façon de redécouvrir tout ça. Il y a un très beau travail qui a été réalisé, et Don Rosa en parlait hier en disant que ça lui a permis d'arriver, de retravailler sur les traductions également. Donc on se trouve face à de la très belle édition.
Et quelques mots en plus sur Don Rosa. Il avait fait déjà l'objet d'une petite exposition il y a quelques années à Angoulême autour de Picsou. Puis c'était plus destiné aux enfants, mais on apprenait aussi pas mal de choses. Et Don Rosa s'était fait connaître aussi, puisque c'est lui qui avait, remis au centre des projecteurs dans la jeunesse de Picsou le côté vraiment rotor. C'est lui qui avait pas mal exploré le Klondike aussi, qui avait installé tous ces éléments. Je crois que c'est lui qui avait fait Mystique aussi. Non, c'est pas lui? Ouais. En tout cas, c'est lui qui a... Il y avait Karl Barth qui avait créé Picsou, mais lui, il avait mis sa patte dessus et il avait insisté vraiment sur le côté vraiment antipathique.
Parce que Karl Barth a beaucoup travaillé sur Donald en réalité, mais avait amené Picsou, avait amené les neveux. Mais je pense que Don Rosa est l'auteur qui a le plus travaillé sur Picsou, qui lui a donné, je dirais, toute cette saveur que le lecteur d'aujourd'hui peut connaître.
Et puis, il faut parler de ces scénaristes anonymes, hein, parce qu'il n'y a pas que les dessinateurs et qui, eux, n'apparaissent pas. Et qui sont capables d'apporter des idées absolument extraordinaires. Par exemple, je me souviens d'une histoire qui explique que tout le monde sait que Picsou dort dans un lit qui prend toute la pièce. Et la raison pour laquelle il dort dans un lit qui prend toute la pièce, c'est que quand il était petit, ses parents étaient tellement pauvres que c'était le tiroir de la commode qui lui servait de lit. Et donc ça, c'est des petites touches très affectives qui font que, effectivement, Picsou, malgré qu'il soit détestable, est un personnage attachant.
Tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Don Rosa. Quelques mots sur les deux autres invités de prestige. On finira peut-être par Uderzo. Donc Leiji Matsumoto, donc Captain Albator en France. Alors, est-ce que, moi je sors assez souvent, est-ce que quelqu'un sait pourquoi il s'appelle Albator et pas Captain Harlock en France? Ah ben, je vais apprendre quelque chose.
Voilà,
alors ouais. En fait, ils n'ont pas voulu l'appeler Captain Harlock puisque ça ressemblait trop à Captain Haddock. Et donc c'est Eric Chardin qui devait faire la chanson du générique de l'animation qui était fan de rugby. Et il y avait un joueur qui s'appelait Balator et son allure sur le terrain, en fait, les gens le comparaient à un albatros. Et c'est Eric Chardin de Stoney Chardin qui a trouvé Albator. Et donc tout le monde connaît Captain Harlock sous le nom d'Albator aujourd'hui à cause de Chardin, de Stoney Chardin.
Ouais, mais tu interroges l'équipe belge de Actua BD et lilloise, et là on est dans des histoires du sud-ouest en fait.
Ah oui, le rugby, oui, ça
en
c'est
fait,
sûr.
Albator, c'est un personnage du sud-ouest, si on a tout compris.
Eh bien, ouais, on est très fiers, voilà, représentant du sud-ouest ici. Alors, ça, tu l'apprends sur les bonus du DVD Albator 78
ah, oui.
D'ailleurs.
D'accord.
Une interview de Chardin, je crois qu'il est mort depuis. Donc, voilà. Leiji Matsumoto, moi j'ai assisté à la conférence hier ouverte au public. Ce qui était très frappant, c'est que pour un japonais, il a beaucoup, beaucoup parlé. Alors que d'habitude, ils sont très, très mesurés, très, très pudiques. Et donc, c'était aussi l'initiative de Julien Bastide qui avait déjà préparé l'entretien, qui a réussi à avoir des documents personnels de Matsumoto, notamment son rapport au voyage, parce qu'il a pas mal voyagé au Kenya avec son fusil, il est allé chasser des lions. Il expliquait que c'était pour se remettre de l'échec de Yamato. Et à l'époque où il misait tout sur Galaxy Express 999, il était tellement stressé qu'il est allé buter des lions au Kenya. Et en fait, au lieu de
c'est
buter,
un mec charmant,
voilà.
Oui, ça donne vraiment envie de redécouvrir le travail de Matsumoto.
Et alors, il a dit que justement, il pense que les lions, en fait, ils ont une intuition pourquoi les humains veulent s'approcher d'eux. Et il n'est pas tombé sur des lions qu'il a pu chasser. Il est tombé sur un vieux. Il y a juste un vieux lion qui est venu le voir. Donc, il a dit bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tué. J'ai mangé un bon steak. Mais voilà. Donc après, il est rentré au Japon. Mais il disait que il avait.
Attends, il a mangé le lion.
Oui.
Il a mangé le lion. Ça devient n'importe quoi.
Mais c'est horrible ce que tu nous dis là, vraiment. Et un vieux lion en plus.
Ouais, un vieux lion. Ouais.
Le vieux lion est mort ce soir. T'as la bande son, non?
Non. Bon. C'était une parenthèse très intéressante dans sa conférence où son rapport au voyage. Il a montré des photos qu'il avait faites d'une Kenyane. Il avait toute une anecdote sur le mari de cette dame aussi. Il a
raconté. C'est un mari qui l'a coursé.
Oui, c'est ça.
Ah, d'accord.
Il a dit pour qu'est-ce que tu veux à ma femme et tout. Donc Matsumoto, il racontait ça d'un air pince sans rire à la japonaise du très exquis. Et ensuite, il racontait son rapport aux femmes. Il a ressorti un document personnel sur son arrière-grand-mère dont on voit le visage qu'il aurait pu inspirer Queen Esmeralda. Et en fait, il dit pas du tout, c'est une coïncidence. Alors voilà, c'était une bonne heure de conférence avec Matsumoto qui a témoigné sur son enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale également, son rapport justement à la musique classique allemande avec Wagner. Donc c'était très intéressant.
Je pense qu'il faut vraiment saluer à ce niveau-là le travail du festival d'Angoulême ou de tous les festivals d'ailleurs, de pouvoir donner l'occasion à des auteurs de venir et de se voir qui peut-être ne pourraient jamais se rencontrer. Je discutais avec Bastien Vivès ce matin et il m'a expliqué donc qu'il avait mangé effectivement avec Leiji Matsumoto et comme pour lui c'était très important... Pardon ? Du lion, sûrement. Et pour lui, c'est très important d'arriver et d'avoir ce témoignage de Matsumoto qui expliquait à Bastien Vivès que pendant 4 ans, il n'avait même pas vu la lueur du jour tellement il travaillait comme un acharné sur ses BD. Et Bastien Vivès me témoignait que ça lui donnait beaucoup de courage parce que là, il est en train de se lancer dans une série dont le premier tome va être publié donc au mois de mars et qui s'appelle Last Man avec deux autres de ses collègues. On va avoir 12 tomes qui vont sortir. Et là, Bastien a dit, pendant 4 ans, on va faire que ça, comme des acharnés. Mais il témoignait vraiment que cette rencontre avec Matsumoto lui avait donné beaucoup de courage, je dirais, pour aller au bout de ce type d'œuvre. Donc, dans des festivals où on peut avoir ces rencontres, je pense que, mine de rien, il y a une grande émulation entre les auteurs à ce niveau-là.
Alors, nous avons à notre table un organisateur de festival au Québec. Depuis quand il existe votre festival? Parce que c'est 40 ans ici chez vous.
On présente la 26e année, 26e édition cette année.
Ah oui, donc, c'est un âge vénérable.
Un festival qui a commencé en 88, donc à recevoir des invités.
C'est le plus ancien du Québec, du Canada?
Du Canada dans sa forme au niveau francophone, oui. Mm-hmm. Au Québec, il y a diverses initiatives qui ont été faites au niveau de festivals de bande dessinée. Le nôtre est le seul qui a perduré. Parce qu'il y a eu des festivals, par exemple, à Montréal qui ont duré 2-3 ans, qui sont tombés. Gatineau a fait 10 ans. Là, ils reviennent. Ils ont pris 3 ans de pause et ils reviennent. Montréal, il y a un nouveau festival qui a débuté l'an dernier. Donc, il y a toujours des initiatives. Mais le nôtre est le seul qui a duré dans le temps.
Et justement, si le vôtre a tenu, vous pourriez expliquer un peu aux auditeurs quelle est votre formule, je dirais, pour faire un bon festival qui dure?
Le sacrifice humain, je veux dire, on met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Mais je pense que tu parlais de la rencontre. Le fait d'amener les auteurs à se rencontrer dans un événement, je pense que c'est très porteur. Puis c'est ce qui fait parce que de travailler avec les gens du milieu pour le festival, oui, on le fait pour le public, mais on le fait aussi pour les auteurs. Au Québec, on a une communauté d'auteurs qui est en plein développement et le festival a participé à ça en amenant des jeunes auteurs qui font du fanzine à venir rencontrer des auteurs professionnels, à discuter avec eux, à développer des projets. Autant au niveau des auteurs québécois que des auteurs étrangers qui viennent. Donc, il y a eu des belles rencontres entre des auteurs français, notamment, et québécois qui ont mené des fois des projets. Donc,
ce que tu dis, Thomas, c'est qu'en fait, avec les différents festivals, le tien ou celui d'Angoulême ou les autres festivals qui perdurent, on a réellement une source là de création. Ça profite à une région de pouvoir avoir effectivement un festival et initier ou lancer des carrières.
Oui, si on regarde un événement comme ici où toute la région est devenue reconnue pour la bande dessinée, bien qu'il y ait d'autres événements comme un événement de cinéma, je crois qu'il y a une course de voitures ancienne, mais au niveau international, Angoulême est reconnue pour la bande dessinée. Je ne sais pas si un événement de cette ampleur-là à Paris aurait le même écho. Je veux dire, pour la région, de voir les jeunes ici tantôt qui rêvent de carrière en jeux vidéo ou en dessin animé, c'est parce qu'ils peuvent côtoyer justement toute cette effervescence au niveau de la bande dessinée puis les institutions qui sont mises en place. Au Québec, on n'a pas ça nécessairement encore, mais au Québec en général. Mais il y a une industrie du jeu vidéo qui s'est développée à Québec et à Montréal notamment, et qui draine beaucoup de talent au niveau de dessin et amène des auteurs de bande dessinée à se tourner plus vers le jeu vidéo, faire moins de bande dessinée. Mais à l'inverse, tu as des Européens, des gens de partout qui viennent travailler dans ces boîtes-là et qui redynamisent un autre volet de la bande dessinée. Fait que c'est
donc
intéressant.
La présence des festivals est vraiment donc très importante alors, oui, pour pouvoir créer ça. Et justement, il faut alors, je suppose, des très bonnes relations avec la ville qui accueille ça.
Ah, ça prend un support de la ville, c'est incontestable. Et surtout que, au-delà du financement, les instances municipales peuvent ouvrir des portes à des bâtisses, à des institutions qui vont faire perdurer le festival au-delà de la période. Nous, c'est 5 jours, mais on a des activités à l'année qui se développent, puis des ententes de collaboration. La ville de Québec, notamment, est une ville jumelée à Bordeaux, à Paris. Il y a des liens qui se sont faits avec Bruxelles. Donc, ça permet vraiment de développer des projets, par exemple des résidences, des choses comme ça, pour amener... Des auteurs de l'extérieur à venir côtoyer les auteurs québécois et créer des liens pour
alors,
que...
Alors, les auteurs québécois, ils ont conquis la France, parce que quand on voit le Grand Prix Guy Delisle...
Ouais. Mais on a commencé par la musique, ouais. On est allé avec l'humour, et maintenant on s'attaque à la bande dessinée. Donc voilà.
On a peur.
Ouais, non, c'est vrai. Non, le Chronique de Jérusalem de Guy Delisle, qui a eu le Grand Prix, prix du meilleur album l'année dernière.
Le Fauve d'Or, oui.
A vendu presque 160 000 exemplaires.
Oui, mais c'est une grande fierté pour le Québec quand Guy Delisle a été nommé. C'est certain qu'au niveau de la bande dessinée, au Québec, c'est embryonnaire au sens où ça se développe, les gens commencent à connaître la bande dessinée. Succès comme Michel Rabagliati, qui avait gagné le prix du public ici aussi, avait fait beaucoup d'écho, avait fait connaître la bande dessinée produite au Québec. Puis Guy Delisle, ça a juste rajouté une couche en plus. Puis il y a les Nombrils qu'il ne faut pas oublier non plus.
Je voulais évoquer les Nombrils, tout à fait, où là on est dans une BD populaire, je dirais dans le sens positif du terme, avec quelque chose de très très bien fait, très bien dessiné, ouais. Et très drôle.
Et qui est un grand succès ici, comme au Québec et ailleurs, parce que c'est traduit aussi en plusieurs langues. Mais de voir qu'on réussit à avoir des succès comme ça, parce qu'on est une population de 7,5 millions, et qu'on réussit à sortir des auteurs qui font leur marque ici. Jacques Lamontagne, tantôt avec les Druides, dans un autre créneau. Au niveau du comique, des gens comme Denis Rodier, qui ont travaillé sur la mort de Superman il y a longtemps, ou Yannick Paquette, qui fait Swamp Thing. On réussit quand même à développer un milieu de la bande dessinée qui est fort et qui s'exporte bien.
Il y a une chose aussi pour laquelle vous êtes très fort, c'est... vous fournissez pas mal de jurys dans les émissions de télé-réalité.
Oui, ben, de ce côté de l'Atlantique, c'est, je pense que... Et des animateurs aussi.
Moi, je voulais poser une question à Didier. On parlait donc de l'importance d'avoir un festival, du sacrifice donc, qu'il faut fournir. Le festival d'Angoulême, quand même, va être fort chamboulé parce qu'on a appris que son directeur artistique... partait pour d'autres cieux, j'ai envie de dire. Comment est-ce que toi, Didier, tu vois, je dirais, ce départ et comment tu te dis qu'il va être remplacé?
Alors, Didier, avant que tu répondes, nous allons faire monter le buzz et passer un morceau musical.
KRS-One, alors ça, c'est sur la bande-son de Blade. Voilà.
Channel Live, represent, yo, let me test this mic when I freshly write, you the best tonight, KRS, be tight, with the West, it's nice, if you the best, be the lightning, we can be praying or we can be fighting, it can be damn, it can be nightin', whatever you saying, it better be writing, it can be exciting, but the fighting be frightening, to the blacks and whites reciting our writing, better we hype, not clash to the titan writing, beyond verbal fighting, expressing a lesson in song writing. Whether I'm right or wrong or both, I'm reciting the oath to be the most on both coasts. Whether I MC toast or host, I expose the logos in my stand-up solos. Yeah, yeah,
yeah. Keep practicing, you're almost there. Never show no fear, cause I can never get near. See them get smeared, it's the crowd cheered, but that's too weird. Don't be worried, don't be scared. I only shared what it's like to be prepared, cause I cared when you stared at me. You dared to be hip-hop, and it's rare, we don't get that.
Et toujours sur Radio FMR avec la rédaction d'actuabd.com et Thomas Louis Côté, représentant donc de la confrérie des festivals du Québec. C'est bien con.
Festival de la bande dessinée de Québec, mais en confrérie.
En fait, tu représentes tout. Tu représentes Michel Falardeau, le Québec en général.
C'est le futur ambassadeur, je pense, du Québec en France. Hein, on peut le dire.
Les animateurs télé aussi, j'ai cru comprendre. Donc, voilà. Charles-Louis, tu avais posé une question à Didier sur justement le remue-ménage chez Casterman et la direction du festival d'Angoulême.
Ben oui, on évoquait effectivement l'importance d'un festival pour une région, pour la bande dessinée, pour les auteurs. Maintenant, un festival, c'est plusieurs personnes, et quand on a une équipe qui arrive et qui bouge, parce que tout évolue, ben ça peut parfois avoir, je dirais, des certaines conséquences, hein, sur un festival. Et donc, Actua BD a appris. Et donc, on a publié, comme d'habitude, effectivement, certaines informations sur le départ de Benoît Mouchard, actuellement directeur artistique du Festival d'Angoulême depuis près de 10 ans, si je ne me trompe pas.
10 ans.
10 ans, pile. Et donc, Benoît qui part et qui va retrouver donc la direction éditoriale effectivement de Casterman, une maison d'édition qui a eu pas mal de remue-ménage également ces derniers mois. Et donc je voulais savoir, Didier, comment est-ce que tu penses que quelles sont les conséquences, je dirais, du départ de Benoît Mouchard
Elles sont contrastées. D'abord, Benoît Mouchard ne part pas pendant le festival, il part après. Il part puisque la date de départ, c'est fin mars.
On lui a demandé de rester le plus tard possible, c'est ça que j'ai compris.
Ben, il doit prester, il a dû donner sa DEM il n'y a pas longtemps et il a 3 mois à prester, donc ce sera jusque fin mars. Il a un certain nombre de jours. Je pense pas que du côté de Monsieur Franck Bondou, on va avoir la mansuétude de laisser partir trop vite, surtout que c'est une grosse perte pour le festival, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait réussi à capitaliser pendant 10 ans, un relationnel auteur absolument exceptionnel, et pas seulement d'ailleurs auteur de BD, puisque il avait également réussi à fédérer un certain nombre de musiciens. C'est grâce à lui qu'on a vu Brigitte Fontaine, ou d'autres noms de la scène musicale française alliés avec des grands dessinateurs de BD. Donc ça, c'est l'apport principal de Benoît Mouchard. Et effectivement, ça ne se remplace pas si facilement que ça. D'ailleurs, je me retourne vers l'organisateur de festival.
C'est le moment de poser sa candidature.
Du Québec. Non, mais je veux dire, c'est très personnel, finalement. Ça dépend des... Un festival peut mourir parce que la personne compétente n'est plus là pour l'animer.
Absolument, parce qu'à un moment donné, ça repose sur les épaules d'une équipe, mais il y a toujours un pivot là-dedans qui fait que ça fonctionne. Quelqu'un comme Benoît Mouchard, comme vous disiez, avait amené vraiment beaucoup à l'événement à travers les programmations qu'il a développées, les concepts, concerts dessinés avec Zep et tout. Dire, une nouvelle personne qui arrive va devoir partir de ça pour bâtir de nouvelles choses ou y aller dans une continuité, mais ce serait malheureux de faire des pas par en arrière.
Mais il y a un proverbe qui dit que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Et
certainement.
Et donc, il va falloir se renouveler. Et finalement, c'est le côté positif de la nouvelle. C'est qu'on va peut-être voir arriver de nouvelles têtes qui vont apporter de nouvelles perspectives. Mm-hmm. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Mais en même temps, le festival est de façon endémique dans des problèmes, on va dire, politiques, d'ego. Il y a une concurrence entre la cité de la BD et le festival, qu'une concurrence qui s'est un petit peu éteinte apparemment ces temps-ci, parce qu'il y a eu un accord de non-agression signé entre le musée et le festival, mais le problème reste là, c'est-à-dire qu'il y a...
Ça devient quand même triste si on doit arriver à faire un accord de non-agression entre deux entités, enfin, je trouve ça terrible, moi.
Ouais. Non, mais ça fait partie de l'histoire de ce festival qui est plein d'ambiguïté, qui en même temps focalise toute une série d'ambitions, notamment des ambitions politiques, notamment des ambitions... industriels. On avait évoqué tout à l'heure ce conglomérat de sociétés de dessins animés, d'écoles qui forment ce que Ségolène Royal appelait la vallée des images. Et donc, toutes ces forces sont contradictoires et en même temps... comme l'évoquent les philosophes grecs, l'équilibre ne peut venir que d'un équilibre de force, précisément.
Oui, mais moi, j'ai quand même une appréhension quand on entend que Benoît Mouchard va rester jusqu'au mois de mars. Enfin, je me tourne aussi vers Thomas. On est d'accord qu'un festival, ça se prépare. On a besoin de 12 mois pour le préparer.
Et même plus. J'imagine qu'ils ont déjà des choses de fait pour l'année suivante. Ils savent où ils s'en vont. Il y a une direction qui est donnée.
Normalement, oui, mais avec le départ d'un directeur artistique, est-ce qu'il faudrait pas, au contraire, le remplacer le plus vite possible pour pouvoir mettre ça en place?
Oui, j'ose espérer qu'ils ont des gens quand même en vue. Mais je me mets un peu dans la place de Benoît Mouchard, qui ça fait 10 ans qu'il fait ça, où tu finis un festival, tu es déjà dans l'autre. Et j'imagine qu'à un moment donné, tu as besoin de prendre une pause pour te renouveler. Puis j'imagine que c'est ce qu'il fait, parce que
Je pense qu'il n'y a pas seulement qu'une pause. Il y a une proposition qui est... D'abord, Benoît Mouchard, très jeune, hein, il a 36 ans. Imaginez, ça fait 10 ans qu'il est sur Angoulême, et là on lui propose rien moins que la direction de Casterman, l'éditeur d'Hugo Pratt et de Tintin. Mm-hmm. C'est quand même un challenge important. On saisit une chance comme celle-là, évidemment. Hein. Cela dit, il va arriver chez Casterman dans un terrain particulièrement perturbé, parce que ces dernières semaines, 6 cadres de la maison, dont les éditeurs principaux, ont donné leur démission. Et donc, il va y avoir là, pendant quelques semaines, un vide de pouvoir éditorial qu'en plus, Benoît va pas pouvoir combler tout de suite. Et ceci dans un contexte où l'ancien directeur général de Casterman crée sa propre maison, Louis Delas, qui est le fils... du fondateur de l'école des loisirs, qui a pris la direction du groupe fondé par son père et qui a bien l'intention de créer une division bande dessinée et qui est d'ailleurs le principal responsable du débauchage des éditeurs de Casterman. Et c'est pas n'importe qui. Je veux dire, c'est.
Tu parles vraiment d'une fronde, en fait.
Non, je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a une espèce de. Il y a eu de la part de Delas une proposition qui a été faite à Antoine Gallimard, que Antoine Gallimard n'a pas voulu accepter. Et donc maintenant, on peut dire que Louis Delas, bien qu'il s'en défende, se venge un peu de cette situation. Alors évidemment, dans les communiqués, il va dire qu'il n'y a pas de volonté d'agression ni d'opposition. Mais en réalité, on imagine assez bien que... Que l'éditrice qu'il a, qui était l'éditrice de Tardy, l'éditrice de Bilal, l'éditrice de Schuiten, on imagine que la migration des éditeurs va être suivie par une migration des auteurs. Et du reste, pour les avoir consultés ici pendant le festival, il y a une grande angoisse, quelques-uns même sont en colère contre Casterman. Et donc, effectivement, ça va faire du grabuge.
Juste avant de partir de la direction artistique du festival, Benoît Mouchard a eu le temps de mettre en place un nouveau système de vote, enfin, entre autres avec la direction du festival, pour justement changer du mode de scrutin habituel, puisque c'était les membres de l'Académie des Grands Prix qui se réunissaient en conciliabule, en sous-exposé dans une chambre noire, pour discuter à qui décerner ce nouveau Grand Prix chaque année. Cette fois-ci, c'est un appel au vote.
Tout le monde peut voter ?
Je crois que c'est uniquement les auteurs.
Effectivement, oui.
Uniquement les auteurs présents à Angoulême.
Non, mais moi, je voudrais quand même tout de suite synthétiser ce changement. C'est un changement de la désignation du Grand Prix. Ce n'est pas les autres prix, c'est la désignation du Grand Prix. Jusqu'à présent, la désignation du Grand Prix était faite par un collège d'auteurs qui était constitué en académie, en l'Académie des Grands Prix. Et cette Académie des Grands Prix, c'était des grands auteurs qui, chaque année, dans cette Académie, encore aujourd'hui, il y a des auteurs comme Fred, comme Mandrika, comme Jean-Claude Mézières, Et puis d'autres plus récents, comme Zepp, comme Trondheim, et Jean-Claude Denis ou Baru.
Et sans citer de nom, il y a des personnes et grands prix qui sont des auteurs, bien sûr, tout à fait importants, mais qui sont beaucoup moins au courant de la production actuelle de la bande dessinée. C'était peut-être oui, un peu des limites, non ?
Alors, c'est le reproche qu'on a fait. Et moi, ça me hérisse, cette histoire. Ça me hérisse complètement, ça me met en colère. J'en ai discuté hier avec François Bouc, qui est tout à fait sur la même ligne que moi. En fait, on a décidé de créer un mode de scrutin qui revient à dire, messieurs les vieux auteurs qui êtes dans l'espèce de formol de l'Académie des Grands Prix, vous êtes des crétins, vous élisez n'importe qui. On a décidé de vous enlever ce mode de scrutin pour le donner à quelqu'un d'autre.
Ça veut dire que ce qui avait été réalisé précédemment n'est pas du tout reconnu, en fait.
Mais ça n'a pas de sens, parce qu'il suffit de regarder la liste des grands prix, il n'y a pas une seule erreur. Il n'y en a pas une. On ne peut pas dire que Crumb, que Spiegelman, que même que Trondheim soit une erreur de choix.
Tout à fait. Et en plus, dans les derniers choix qui ont été réalisés, on a différents types de bandes dessinées. On a de la bande dessinée quand même très jeune.
Qui peut oser dire que Baru n'est pas légitime, que Jean-Claude Denis n'est pas légitime? Ce sont des grands auteurs. Et moi, je trouve que même s'il y a un côté conservateur, même s'il y a une cooptation de génération entre ces auteurs, je trouve que les choix qui sont faits sont des choix de reconnaissance d'un grand auteur pour qui, par exemple, Volinsky, qui a quand même été l'animateur et le créateur de Charlie, qui a été une des grandes figures de Charlie Hebdo. Quand on donne un prix à Volinsky, on ne récompense pas seulement Volinsky, on récompense Charlie Hebdo, on récompense un certain type de bande dessinée qui a permis l'éclosion de Reiser, qui a permis l'éclosion de Vimain.
Tout à fait. Donc
quand on donne un prix à Trondheim, c'est pas un prix à Trondheim, c'est l'association. Donc c'est chaque fois, il y avait la génération Casterman, il y a eu la génération Albin Michel, il y a eu la génération de l'association, il y a eu Delcourt qui était un faiseur de roi, qui l'est toujours d'une certaine manière. Donc moi, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est que on vient avec une solution alternative qui n'a pas de sens. Pourquoi elle n'a pas de sens? Parce qu'on avance une liste de 16 noms. J'ai eu la confirmation hier par François Bouc. Cette liste de 16 noms n'a pas été décidée par les membres de l'Académie des Grands Prix. Elle a été décidée par le festival, par Benoît Mouchard et ses petits camarades dans le secret de leur bureau. Ça, c'est première connerie. Deuxième connerie, on avance 16 noms. Et donc, quelque part, on suggère qu'on en a pour les 16 prochaines années, puisque ce sont les 16 noms les meilleurs possibles pour être élus. Donc, ça veut dire qu'un grand auteur, dont je ne citerai pas le nom parce que c'est un peu vexant pour lui, me dit, mais je ne comprends pas. Ces dernières années, on m'a dit que j'étais dans le top des 4-5 noms ou des 10 noms qui revenaient, et je ne me retrouve pas dans les 16. Donc, on ne se rend pas compte des dégâts collatéraux que ça provoque. Parce que déjà, les membres du jury en place, les Mézières, qui sont des auteurs considérables, Fred, qui c'est des très grands auteurs. Alors, on va me dire que Fred, qui a 80 balais, ne lit pas les albums de Bastien Vivès. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire...
J'entends bien, c'est pas Bastien Vivès qui doit être primé pour l'instant.
Non, mais je veux dire que c'est plus un problème de méthode. Parce que si, admettons que...
J'aimerais quand même que tu expliques aux éditeurs vraiment comment fonctionne ce nouveau vote. Parce que des éléments par bride, c'est peut-être pas très clair pour les éditeurs.
D'accord.
De comprendre.
Donc premièrement, on a ces 16 noms qui sortent du chapeau du festival sans que le jury, l'Académie ait été consultée. Et en fait, on va demander aux auteurs accrédités sur place à Angoulême de déposer dans une urne un bulletin de vote qui va désigner les grands prix. Et en fait, on a une liste, il va y avoir donc un certain nombre de suffrages exprimés, et les 3 ou 5, parce que je ne suis pas arrivé, même François Bouc ne sait pas si c'est 3 ou 5 noms qu'ils vont recevoir.
Tu veux dire que des personnes qui ont reçu le Grand Prix ne sont pas au courant de voilà, comment fonctionne
François Bouc, Grand Prix, membre de l'Académie, ne sait pas s'il va recevoir 3 ou 5 titres ou 5 noms à choisir.
Ça veut dire que dans les 16, si jamais Benoît Mouchard ou l'équipe du festival décide que le 4e nom est le plus intéressant, ils vont leur en donner 5, par exemple, juste histoire de pousser ceux qui veulent.
Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, une première anomalie. Et donc, on va leur demander, enfin, ils ont exigé, parce que sinon l'Académie, elle se barrait, ils ont exigé d'avoir le dernier mot. Donc, il y a potentiellement 1500 auteurs présents à Angoulême qui vont voter pour des gens, et finalement, c'est peut-être pas celui qui aura eu le plus de suffrages qui va être le vainqueur du Grand Prix. Donc déjà, c'est bizarre. Après, il y a le 6...
Tu veux dire quoi ? C'est bizarre parce qu'on aurait dû aller jusqu'au bout, il aurait fallu que tous les auteurs puissent voter ou que le Grand Prix vote, mais pas les deux en même temps.
Mais bon sang, on est en 2013, l'Internet existe, pourquoi on met pas en place une interface où les auteurs peuvent voter, envoyer des mails ? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut se faire de façon quand même infiniment plus moderne que de déposer un truc dans une urne. Et alors, il faut voir dans les conditions dans lesquelles c'est fait. C'est que, d'abord... Tous les auteurs sont pressentis, c'est-à-dire que le petit fanzineux qui a publié 2 pages dans un fanzine tiré à 3,5 exemplaires,
il a le même poids
D'Horizon, par exemple.
Ouais, mais ça, ce serait pas gênant s'ils étaient 500 à voter. Alors quand on a vu, comme c'est une urne transparente, on a vu qu'ils n'étaient pas 500 à avoir voté pour l'instant. Ça devient gênant à cause de ça.
C'est, oui, parce que,
Quand vous dites qu'il n'y a pas grand-chose dans l'urne, on dit aux auditeurs, vous avez vu ça quand ?
Il y avait combien de bulletins ? Il y a 2 jours, on a fait le point à 16h, il y avait 14 votes dans l'urne, 14 votes. Et hier, à 14h, j'estime qu'il y en avait moins de 100.
Oui, là, ça devient vraiment pathétique.
Oui, parce que c'est une urne transparente qui sert aussi pour les élections habituelles. Donc, on a pu voir le nombre de bulletins sans enveloppe, d'ailleurs.
Ça veut dire que ne pas voter peut provoquer un mauvais Grand Prix, en fait.
Non, mais alors, c'est un ridicule consommé. C'est-à-dire qu'à mon avis, avant-hier soir, ils sont aperçus qu'ils risquaient d'avoir un vote qui va être le résultat d'une centaine d'auteurs. Parce qu'il faut imaginer que les auteurs, ils sont quand même derrière leur table en train de dédicacer. Donc, il faut qu'ils... Au lieu d'aller pisser entre 2 séances de dédicaces, ils aillent voter.
L'espace Franquin n'est pas à côté.
L'espace Franquin n'est pas à côté. En plus, il n'y a aucune indication. C'est-à-dire que moi, on a suivi Benoît Peters il y a 2 jours. C'est le reportage est sur ActuaBD. Benoît Peters a commencé à chercher de savoir où ça se trouvait. Ce n'est qu'au sous-sol qu'il y avait un fléchage qui indiquait où se trouvait le bureau de vote.
Donc, il faut faire beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour pouvoir voter, et encore le système n'est pas très clair.
Voilà, et puis le nombre d'auteurs qu'on croise qui dit mais ah bon, j'ai le droit de vote, ils sont pas au courant.
Là, il faut dire quand même qu'on a vu des gens passer dans les bulles, aller voir les auteurs pour leur dire, pour leur réexpliquer comment voter et qu'ils avaient le droit de voter.
Non, c'est pire que ça. C'est-à-dire que comme ils sont aperçus que les auteurs ne venaient pas à l'urne, ils ont mis l'urne sur un diable et ils sont allés dans les allées. J'ai les photos, elles paraîtront sur ActuaBD d'ici quelques heures. Ils sont allés dans les allées pour attraper les auteurs derrière leur stand, pour leur faire remplir un bulletin de vote. Et comme le suggérait tout à l'heure Thomas, le pire, c'est que le vote n'est même pas dans une enveloppe. C'est-à-dire qu'on peut voir à travers l'urne quels sont les suffrages exprimés, il suffit de les bouger un peu.
C'est un papier costaud qui est en 2 volets et qui n'est pas plié à fond. Donc en fait, c'est à demi ouvert, donc tu peux regarder.
Donc bref, il n'y a plus aucun secret, je dirais, par rapport à ça.
Surtout ce qui est.
C'est la forme aussi. Ouais.
Surtout ce qui est dommageable, c'est que ça décrédibilise ce
tout
prix.
Le système, oui.
Ça décrédibilise. Bah, admettons que causait le prix, ce qui serait énormément légitime.
Tout à fait.
À cause de ce mode de scrutin, il pourrait être
considéré comme pas un vrai Grand Prix. Oui.
Qu'est-ce qu'en pense l'organisateur d'un festival au Québec?
On remet des prix à chaque année de moins de rampleur dans ce qui se fait ici. On a tenté des modes de scrutin par Internet, notamment vote du public et tout ça, et ça cause des problèmes à chaque fois dès qu'il y a un changement de mode de scrutin. Je pense qu'avec ce qu'ils font cette année, il explore une piste et c'est peut-être pas la meilleure solution J'imagine que les commentaires seront rassemblés et trouveront quelque chose de meilleur. Sur un mode académique, un peu comme se fait aux États-Unis pour les Oscars, où c'est l'industrie qui vote, je ne sais pas s'il n'y aurait pas une piste à explorer de ce côté-là, où le vote se ferait en amont par vote électronique et qu'en arrivant au festival, les votes soient déjà faits. Parce qu'effectivement, je ne pense pas que les auteurs aient nécessairement l'occasion de se déplacer un peu partout pour aller voter. Mais ça implique une fédération des auteurs, une association, quelque chose qui accrédite les gens qui vont voter.
Il faut aussi préciser pour ceux qui ne connaissent pas trop les files de dédicace, c'est que les auteurs, quand on dit qu'ils sont blindés au niveau emploi du temps, c'est blindé, mais avec un grand B. C'est blindé, blindé, blindé. Il y en a certains, ils se font virer par les services de sécurité dans les bulles quand même, il faut le préciser. Un auteur comme Coyote, il dédicace jusqu'à la fin. Il a juste le temps pour aller manger, puis c'est tout, quoi. Mm-hmm.
Donc, bon. Si les votes se feraient avant l'événement, oui. Probablement que ça simplifierait la chose.
Mais écoutez, on va retenir l'idée, l'idée de comment dirais-je, de évidente que vous suggérez. Et on espère que notre émission va être écoutée par les organisateurs du festival.
Alors, c'est ainsi que nous allons laisser l'antenne à Du Sport, qui en plus, je crois, a un invité aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de rendre l'antenne, parce que d'habitude on a un peu des horaires élastiques. Donc le temps pour nous de vous dire que ce fut une bonne émission. Nous sommes ravis d'avoir une nouvelle fois accueilli la rédaction d'ActuaBD.com et le jeune jury du Conseil Général des Jeunes de Charente en direct du Festival d'Angoulême. Thomas Louis Côté, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc nous passons l'antenne à Ça c'est Du Sport. Nous sommes sur 89.1 MHz, radio éphémère sur Toulouse et...